Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct, mercredi 16 février 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Ce soir, un programme extrêmement chargé autour de cette table au cours de la soirée. Roger Hollande, bonsoir Roger. Ouh, j'ai en train de lire un bouquin.
Oui, non, mais je t'ai parlé, je regardais le bouquin, ce qui m'intéresse.
Ah oui, je crois bien, oui. Ouais. Claude Simplet qui va venir nous parler du Togo, qui vient nous parler du Togo. Ensuite, nous parlerons d'un ouvrage qui vient d'être publié par Renaissance catholique qui s'appelle « Bref examen critique du nouvel ordre missé » sous le titre un peu austère se cache un ouvrage extrêmement intéressant qui révèle pour la première fois les aspects les plus intéressants de la réforme de la liturgie, les aspects annexes. Il y a bien sûr l'examen critique qui est connu, mais il y a surtout deux aspects annexes. D'une part, enfin, il y a surtout une présentation historique de l'abbé Barthes qui sera avec nous. Il y aura un commentaire de Jean Médiran qui sera avec nous aussi. Et c'est Michel de Gégère qui nous parlera de l'ouvrage. Et ensuite, nous recevrons M. Jean-Marie Deschamps, qui est président de l'association L'Enfant a des droits, qui nous parlera de la situation, du comportement d'une certaine justice face à l'enfant dans les cas douloureux de mariage rompu ou brisé ou de couple divorcé. Michel de Poncin, qui nous démontrera que il ne s'agit pas d'un retour au socialisme, mais d'un maintien du socialisme en France depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années. On est toujours dans un régime socialiste et Michel de Poncin fera la démonstration. Michel de Poncin, c'est, vous savez, le journaliste et l'écrivain qui a fait qui a publié tout récemment un livre extrêmement amusant, dont le titre naturellement m'échappe, mais il viendra nous le... Pardon ?
Peut-être faire à l'Élysée.
Ah non, c'est depuis, il a
sévi nous. Celui-là était très amusant et très pertinent.
Alors il en a fait un autre, là, sur les fêtes et les festivités que les princes de la République se payent sur notre dos, c'est vraiment ahurissant. Nous recevons ensuite Georges Wolff, qui arrive de Colombie et qui nous parlera de la situation de la Colombie. C'est intéressant parce que la Colombie, c'est un pays qui est dirigé par un fasciste. Enfin, si on en croit Chirac. Il faut dire que si on écoute Chirac, le fascisme commence à sa gauche. Donc,
pour être fasciste avec Chirac, il ne faut pas faire grand-chose.
Voilà, mais enfin, en gros, c'est ça. Et puis Patrick Goffman fera une apparition brève pour nous présenter un disque de musique russe, vous avez tous compris. Je signale que vous n'entendrez pas la voix qui n'est pas du tout méliflu alors de Victoria, parce qu'elle a une bronchite carabinée, et elle a plutôt une voix de rogome, comme disait ma belle-mère. J'aime bien l'expression, je sais pas si c'est une voix de rogome, voilà. C'est le programme, alors si ça ne vous intéresse pas, eh bien vous avez la possibilité d'écouter de la musique sur Radio Classique, ou de lire, c'est une chose à essayer de temps en temps, il arrive qu'il y ait des bons bouquins. Je voudrais d'abord remercier les très nombreux auditeurs, je blague pas, hein, qui ont pris la peine de m'écrire pour m'expliquer ce qu'ils avaient compris que je n'avais pas compris, à savoir la fameuse question du carré de l'hypoténuse, ou plutôt de la longueur de l'hypoténuse, qui est alors ils m'ont tous expliqué que j'avais rien compris, mais en fait je maintiens que moi j'ai très très bien compris, c'est eux qui n'ont pas compris ce que je disais. Je me demande si je ne vais pas publier, ils m'ont envoyé tellement de lettres. C'est très curieux de voir comment un sujet, je dis ça comme ça dans le fil de l'émission, j'ai évoqué cette question de la racine carrée. Et mon vieux, d'habitude, ce que je dis rien, ça a à peu près le même effet sur les populations. Mais là, ça a déclenché un tsunami de lettres, je n'ai jamais vu ça. Des professeurs d'université, des professeurs de classe, des mathématiciens, des physiciens.
Qu'ils écoutent, là.
D'abord, ça prouve qu'ils écoutent, puis alors, mon vieux. Et ça m'a rappelé une histoire, à minute. On avait un jour terminé un article en disant Pampan l'herbi, comme disaient les oeuvres. Alors là, ça a déclenché une polémique épistolaire qui a duré un an. C'était pas la chanson des oeuvres, c'était la chanson des tirailleurs, c'était la chanson des cavaliers, comment on appelle ça, les cavaliers qui montent sur les chameaux, là.
Ouais,
les mères. Voilà. Les mères. Ça a duré un an, on a été obligé d'y mettre un terme d'une façon autoritaire, parce qu'autrement, en minute, serait devenue la chanson de Pampan l'herbi, comme disaient les points de suspension. Voilà. Je me réjouis de ne jamais avoir donné d'argent à Chirac, parce que les gens qui filent du fric à Chirac, en ce moment, pour eux, ça va plutôt mal, hein, on veut dire. On a vu disparaître Monsieur Yadema, on a vu disparaître Monsieur Sirven, Monsieur Hariri. J'espère qu'il n'est pas en train de faire le coup des tentes à héritage. Enfin, tant que de la nouvelle vision, il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais quand même. Aéroport de Paris, vous avez vu l'histoire. Donc, on fabrique un magnifique bâtiment pour l'aéroport de Paris, à Roissy, et le bâtiment s'effondre. Le bâtiment qui est à la pointe de l'avancée la plus extrême de la technique française, on est bien d'accord. Et alors maintenant, on sait pourquoi il s'est effondré. Il s'est effondré parce qu'il a fait froid. Voilà, donc la pointe de la technique française en matière de construction, c'est de construire des immeubles qui s'effondrent au-dessous de 4 degrés. Je le signale aux utilisateurs du pont de Millau. Moi, pour ma part, je continuerai à faire le détour. Vous êtes tranquille, le jour où je passe sur ce pont, les poules auront des dents. Il y a un monsieur qui me dit, pour montrer qu'on est contre... je sais pas trop quoi, d'ailleurs. Ah oui, si, contre le laïcisme, il faut mettre un chapelet à son rétroviseur dans les automobiles. Moi, je suis d'accord, on fait ça depuis longtemps dans ma voiture, mais... on nous prend souvent pour des Portugais. Hein. Faut savoir à quoi vous exposez si vous mettez un chapelet. C'est pas, moi, ça me gêne pas d'être pris pour un Portugais, mais au moins on est sûr que vous n'êtes pas. Donc voilà. Et si vous voulez vraiment avoir de gros ennuis, vous faites que moi, à l'arrière de la voiture, mettez une étiquette sur laquelle il y a marqué "Touche pas à ma police". Et là, si votre voiture brûle pas, c'est parce que vous avez un garage bien gardé. Alors, le Canard Enchaîné nous a appris que M. Guémard habitait un appartement de 600 mètres carrés.
Je trouve ça un peu dégueulasse.
Quoi, de la part du Canard Enchaîné?
Non, de la part de tous ces ministres. Jusqu'à présent, tout ça ne me touchait pas. Mais ils savent très bien qu'il y a tellement de scandales et que le monde en a marre, que les Français en ont marre. Bon, je comprends pas pourquoi ils continuent à faire ce genre de trucs.
Tu connais la Bible?
Mais non, mais j'ai eu le prix ce matin.
Il y a une phrase dans la Bible qui est extraordinaire, qui s'applique très bien. Là. C'est « Tu ne muselleras pas le chien, le bœuf qui tire la meule. » Voilà. Donc ça veut dire que quand un bœuf qui tire la meule pour écraser le grain, il ne faut pas lui mettre de muselière, il peut bouffer le grain. Ben, les ministres, c'est comme des bœufs.
C'est bien eux qui tiennent les radios, c'est bien eux qui tiennent les télés. Quand tu ne peux pas manger le soir tranquille ou après manger, tu ne peux pas regarder la télé sans avoir toujours des gens qu'on te présente, des miséreux, des mecs qui sont dans la mouille jusqu'au cou. C'est tous les soirs. C'est de plus en plus d'ailleurs des clandestins. Bon, ils sont là, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. Je me demande, moi, quand je vais à l'étranger, je ne leur demande pas un logement, je ne leur demande pas un hôtel, je m'en... Bon. Alors, mais justement, alors comme c'est prennent le misérabilisme généralisé, qu'ils arrêtent tous ces ministres de faire ce genre de conneries, parce que ça amène de l'eau aux anards, et les anards, il y en a déjà assez, j'en parlerai tout à l'heure.
Roger, c'est très bien, moi je suis tout à fait d'accord pour que les ministres continuent à démontrer que la République est un ramassis de voyous.
Enfin, oui,
c'est
très positif, mais enfin, vieux, il faut être logique avec nous-mêmes. On dit que la République, c'est pas la France. Moi, la République, pour moi, c'est pas la France. Moi, je pense à la France, qui est notre pays. On est gouverné par des voyous, mais ça ne change rien au fait que c'est la France qui en prend plein la gueule.
Oui, mais si Guémard habitait un 30 mètres carrés avec ses 6 enfants, on serait pas plus heureux pour autant. Donc, s'il peut habiter un 600 mètres carrés, tant mieux pour lui.
Non, mais enfin, l'argent des contribuables, il y en a marre qui passe à la trappe pour ce genre de choses.
Il y en a marre. Moi, je trouve ça très bien. Moi, j'aimerais bien cette ministre avec 600 mètres carrés sur les Champs-Élysées.
Je crois qu'on est arrivé à un moment.
Un château, tu vois, Roger.
Oui, j'ai un château, mais ça me coûte la peau des fesses et il est pas à moi, il est à mon association. Et crois-moi que les impôts et tout, mais enfin, c'est pour une association et on en fait un usage utile pour le pays.
Finalement, tu y crois encore, toi, à l'honnêteté des hommes politiques. Tu crois que c'est possible?
Moi, je me fous que les hommes politiques soient malhonnêtes ou pas, je les emmerde. Mais moi, j'essaye d'être honnête, voilà.
Ouais, jusqu'à présent, ça t'a pas beaucoup réussi. Hein. Tu as réussi à être honnête, mais ça t'a pas beaucoup enrichi.
Non, je
sais pas. Sauf que t'as une boîte à musique sur toi,
oui.
Ceci.
Moi, je vais l'arrêter. Je pense que la situation du pays est tellement grave, je crois qu'on peut plus s'amuser, on peut plus rire de rien de tout ça. On ne peut plus rire. Je crois que il faut quand même voir. Tout à l'heure, je vais raconter.
Je te donne la parole tout de suite. Je fais une dernière réflexion sur les Irakiens qui ont plus un poil de sec.
Pourquoi?
Parce que tu as vu que depuis qu'ils ont enlevé Florence Aubenas, les chanteurs ont organisé une réunion à l'Olympia, et ils ont prévenu que si elle n'était pas libérée dans la semaine, ils faisaient une autre réunion au Zénith, et si elle n'est pas libérée ensuite, ils vont chanter directement en Irak. Donc les mecs, ils s'affouettent tellement, parce que quand ils... Moi, à leur place, je la rendrai vite.
Comme tous ces mecs, ils ont couvert tout, tu comprends, partout ailleurs, quand ça se passe, ce sont des patriotes, alors il faut les savoir, ceux-là, c'est pas des patriotes.
Ben non, faut croire que...
C'est pas des résistants, ceux-là.
Non. Non, ça, c'est des terroristes.
Ah, ben, c'est emmerdant.
Attends, un résistant, c'est un terroriste qui a gagné.
Oui.
Il faut quand même connaître le vocabulaire. Ouais. Bien, alors oui, tu voulais nous faire part d'un événement qui s'est passé au Conseil régional.
Je voulais faire part, et c'est pour ça que je suis assez anxieux sur l'avenir de notre pays, quand je vois comment nous sommes dirigés, quand je vois les âneries racontées par M. Chirac et tous ses ministres, c'est que pour nous plomber, pour pas qu'on ait une place nulle part, bon, ils ont fait en sorte que la gauche enlève 20 régions sur 22. Bon, il y en a une. Ben, ils ont 20 régions sur 22. Alors, les trois quarts des gens ne se rendent pas compte de ce qu'est une région, de l'argent que cela représente, du nombre d'emplois que ça peut couvrir, et ces emplois, ben, quand ce sont des régions socialistes, ben, ces emplois vont de préférence aux socialistes. Et comme ces régions socialistes tiennent souvent la route avec l'appui des Verts, eh bien, ils accordent n'importe quoi aux Verts. Et les Verts se retrouvent aujourd'hui à tenir le manche en ce qui concerne les investissements, en ce qui concerne les subventions et autres. Et je répète, il faut quand même savoir de quoi on parle. Le budget du Conseil régional d'Île-de-France, c'est 3 milliards 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, j'entendais parler l'autre jour, et le groupe Front National s'est élevé contre ça, qu'on allait aider Hanoï, je crois, pour le métro, je ne sais quoi, mais des conneries sans nom, mais des trucs qui ne ressemblent strictement à rien. Et nous, nous prenons la défense des Français. Bon, et puis je suis content que ce soit devenu quand même un des slogans du Front National, où on nous traite toujours de racistes. Nous disons Français, quelles que soient les races, quelle que soit la race, la religion ou la couleur de peau. Bon, c'est ce que je défends, moi, depuis 20 ans. Sans un succès, d'ailleurs, évident, mais c'est pour moi la position. De façon à dire, eh bien voilà, cela. On les accepte, mais on ferme les frontières. Eh bien, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faut accepter cela, plus ceux qui arriveront demain, plus ceux qu'on va faire rentrer, plus ceux qui vont nous être imposés par l'Europe. Et par exemple, Nous avons l'exemple quotidien. Là, nous avons eu 4 jours et 5 nuits de débat en ce qui concernait justement le budget. Bon, nous avons passé des amendements, nous avons proposé des amendements. Il y a eu 130 amendements proposés par l'UDF, l'UMP ou le Front National. Aucun de ces amendements n'a été accepté. Ils ont le pouvoir absolu, hein, et ils s'en tiennent là. Ils tiennent le manche et ils nous emmerdent. Et ils emmerdent tous les Français qui ne sont pas socialos ou qui ne sont pas comment, trotskistes à travers les Verts. Et là, nous avions proposé donc 3 millions pour les Français les plus déshérités, dans la misère. Hein, eh bien, le groupe Vert a déposé plainte contre nous et demandé que tout ça soit envoyé à la justice pour que nous soyons poursuivis. Bon, moi, je m'en fous. Hein, je ne sais pas qui ira représenter le groupe. Là, je suis en train de faire un bouquin en ce moment qui s'appelle « La guerre psychologique et les nouveaux collabos ». Mais jusque-là, je tournais 15 fois ma plume avant d'écrire. Là, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. Et j'attends qu'on me convoque. Le bouquin, je vais le terminer. Je pense que c'est un gros travail parce que j'ai un tas de citations, j'ai un tas de preuves et tout ça. J'attends que le bouquin sorte et j'attends qu'on me convoque. Voilà. Et si on me convoque, eh bien, j'appellerai le banc et l'arrière-banc du front du Cercle National des Combattants, de mon cercle. J'amènerai 250 types, Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre, la poitrine pleine de médailles. Je demanderai au tribunal, eh bien, voilà, devant nous, vous allez déclarer qu'on ne peut plus être français, qu'on ne peut plus parler de français en France, puisque non seulement la préférence nationale est interdite, mais même le mot France et le mot français sont deux mots totalement tabou. Alors moi je pense que c'est pas c'est pas faire du cinéma de penser que la situation est plus que grave. Elle est dramatique, elle est catastrophique.
C'est ton anniversaire bientôt.
Oui, le 21 mars. Oui.
Qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu fais une petite fête, non?
Non, on fait le 26, on fait une choucroute colossale au château.
Colossale choucroute, je l'ai
même osé l'imprimer.
Au
château, il faut quand même qu'on fasse tous les mois quelque chose. Bon, et puis j'entends souvent des gens qui foutent rien, qui disent oh, Hollande, il s'est mis un truc sur le dos, c'est le tonneau des Danaïdes. Ça n'est pas vrai. Quand un truc est géré sérieusement, hein, et que le directeur se fout pas l'argent dans les fouilles, et le directeur étant moi, je me fous pas d'argent dans les fouilles, mais je me suis désigné pour verser une grosse cotisation mensuelle. Voilà.
C'est ça
le résultat. Et le château est en état de marche. Bon, c'est vrai qu'on l'a mis en vente parce qu'il faudra bien qu'on s'en sépare un jour, mais il est en état de marche et tout tourne bien.
C'est pas Yadema qui va te l'acheter, en tout
cas. Non, c'est pas Yadema qui va l'acheter. C'est un château français en territoire français libéré. Voilà.
Alors, apéritif offert. Donc, ça se passe le 26 mars. Le 26 mars, hein, c'est
oui,
pas la peine d'arriver le 26 février.
Il faut s'inscrire au CNC à Paris, quoi. Hein.
À midi, apéritif offert par le CNC au château de
Neuilly-sur-Seine. Ouais, l'apéritif offert, ça sera pas un godet. Il y aura tout ce qu'il faut. Le principal, c'est qu'il se torche pas trop le museau, quoi. Qu'il puisse arriver à table pour manger la choucroute.
Et pour les gens qui ne savent pas où c'est, Neuilly-sur-Barangeon.
Neuilly-sur-Barangeon, tout le monde sait où c'est. C'est en Sologne, à 18 km de Vierzon.
Voilà.
Moi, j'appelle ça pléonasme sur redondance, mais pour des raisons que je n'explique pas au micro.
Mais vous savez qu'en ce moment, il y a une grosse bagarre à Vierzon, qui a décidé de changer de nom pour essayer de redorer un petit peu son blason et qui veut se faire appeler Vierzon en Sologne.
Ah bon? Tremblay, avant ça s'appelait Tremblay, c'était plein de Français, il n'y a plus de Français, ça s'appelle Tremblay en France.
Ça s'appelait Tremblay-les-Gonesse, c'est ça, non?
Non, c'est Tremblay.
Il n'y a pas un
Tremblay-les-Gonesse. Mais alors, puisque j'ai commencé et que j'ai peu de temps, je vais peut-être terminer sur mon truc, comme ça on pourra laisser la place aux copains. Je voulais signaler aux amis que ce que nous disons, c'est peut-être des blagues, hein, puisque ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit la même chose et qu'on se fait insulter. Mais là, cette semaine, la semaine dernière, j'ai acheté Valeurs Actuelles, hein, qui est un journal apparemment de droite, et j'ai acheté Marianne, qui est un journal apparemment de gauche. En ce qui concerne l'immigration, le drame scolaire, enfin tout ce qui va mal en France, ben, ces deux journaux disent exactement ce que nous disons depuis 30 ans. Voilà, mais nous, quand on le dit, on est des salauds, des fous, des nazis, des arriérés mentaux. Alors, j'ai amené aussi un petit truc, puisque c'est bien la droite qui est au pouvoir, même si les socialos en 22 régions en France, le pouvoir est quand même tenu par M. Chirac, qui est gaulliste, et il y a quand même une majorité UMP et UDR à la Chambre. Alors, voilà ce qui est donné dans les écoles aujourd'hui, c'est une petite fable de Manhattan Kaboul, de Renaud et d'Axel Red. Alors je vous lis un petit passage. Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Alors le professeur dit, souligne les paroles que tu as chantées, explique en quoi cette chanson est une chanson engagée. Voilà. Mais on est dans un pays de droite, hein. On n'est pas gouverné par les soviets.
Bon. Ça fait penser à l'histoire du problème de pommes de terre. Tu sais, en 1900, on disait aux élèves, le paysan récolte 50 kilos de pommes de terre qu'il vend au marché 2 francs.
Oui.
La semence lui a coûté 5 francs.
Oui.
Calcule le prix, le bénéfice du paysan.
Oui, oui, oui.
Et en l'an 2000, c'est écrit, le paysan sème des pommes de terre, souligne les pommes de terre et parle-en avec tes copains.
Ouais. Voilà. Alors, dans le cadre, justement, alors de cette démobilisation et de cette insulte générale envers la France, bah, je voulais aussi dire deux mots en tant que président du cercle national des combattants au sujet du film qui est passé l'autre soir, hein, L'ennemi intime, en trois heures sur l'Algérie, où une fois de plus, bon, l'Algérie, bah, les soldats français en Algérie passaient leur temps à piller, à violer. On se demande quand est-ce qu'on se battait. On se demande comment on a pu écraser et battre le FLN. Parce que le problème dans les quartiers et tout ça, c'est qu'on raconte à tous ces jeunes qui veulent pas tellement être français que l'armée française a été écrasée en Algérie. Alors maintenant, comme on leur raconte en plus, hein, qu'on violait leur grand-mère et tout ça, mais tous les jours, hein, dans le Djebel, tu voyais, hein, toutes les petites arabes avec les robes flottantes, mignonnes et tout, c'était tellement attirante que les mecs pouvaient pas passer à côté sans les violer, quoi. Puis il n'y avait plus de sous-offres, il n'y avait plus d'officiers, il n'y avait plus rien. C'était la grande vadrouille, quoi. On viole. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais enfin, que tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Alors maintenant, ça leur suffit pas, l'Algérie. Alors ils reviennent sur l'Indochine. Alors le mercredi 9 février, là, sur Arte, il y avait un truc que j'ai regardé, parce que on ne peut pas diriger une association d'anciens combattants comme le mien et ne pas regarder, surtout que je suis ancien d'Indochine. J'ai quand même fait 3 séjours en Indochine. Alors c'était les légionnaires allemands dans la guerre d'Indochine. Alors les légionnaires ont payé un sacré tribut, hein, dans l'armée française, dans le corps expéditionnaire en Indochine. Je crois qu'ils ont eu 3000 morts. C'est pas rien. Et il faut multiplier par 5 ou 6 pour avoir le nombre de blessés. Alors, il y avait beaucoup de légionnaires à cette époque qui ont été recrutés dans la Wehrmacht. Mais eux, pour eux, ils étaient tous anciens SS, ils étaient tous des jeunesses hitlériennes et tout. Bon, enfin, peu importe le gars qui signe son contrat à la Légion, bon, ils ont fait leur boulot. Bon, sur le lot, il y en a quelques-uns qui ont déserté. C'est vrai, il y en a qui ont déserté. Bon, mais on vient, là, ils ont interrogé deux types qui étaient fiers d'avoir servi la Légion, qui portaient leurs décorations et tout, qui faisaient partie de l'association des anciens légionnaires en Allemagne, que je connais, et qui ont de la tenue, qui ont de la gueule, et qui sont français par le sang versé. Et puis, ça a été très 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 court. Et par contre, ils ont interrogé trois types qui étaient des types qui avaient déserté, hein, et ils se sont servis des archives de la Stasi pour avoir les témoignages. Il est bien sûr que ces types qui avaient déserté, qui ont été rapatriés grâce au coco par l'Allemagne de l'Est, hein, ils ont raconté à la Stasi tout ce qu'ils pouvaient raconter pour se faire dédouaner. Là, il y en a un qui racontait que les officiers français, quelle bande de salauds, quand même, ces officiers français, ben, ils donnaient des primes. Quand le gars ramenait une tête de viette, il avait une prime. Et l'autre, il faisait pas dans le détail parce qu'il a joué un jour un camion chargé de 5000 têtes de viette.
Ah, voilà.
Mais tout ça passe comme une lettre à la poste, mais c'est proprement honteux. Dans aucun pays au monde, un pouvoir permettrait à la télévision de raconter de telles saloperies sur sa propre armée. Alors, je pense qu'il faut quand même continuer à se battre. Moi, je continue à me battre. Je pense que peut-être qu'un jour, on gagnera quand même. C'est mal barré, mais il faut pas désespérer. Mais je crois que la situation aujourd'hui, avec M. Chirac et tous les zozos qui l'entourent, n'a jamais été pire. Ça n'a jamais été pire.
Il nous ferait regretter Mitterrand, hein.
Ah oui, mais ça n'a jamais été pire. Même sous Mitterrand, qu'ils avaient mis au pouvoir, parce que ça aussi, je le raconte dans mon bouquin. Pour la vingtième fois dans un bouquin, je vais faire imprimer toute l'explication sur l'arrivée de Mitterrand au pouvoir grâce aux hommes de M. Pasqua et grâce aux lettres envoyées, aux 800 000 lettres envoyées sur le fichier du RPR. Parce qu'il y en a marre qui viennent toujours dire que c'est nous qui avons amené Mitterrand au pouvoir. Mitterrand est resté 14 ans au pouvoir grâce à M. Pasqua et à M. Chirac. Voilà, la vérité est là. Elle n'est pas ailleurs.
Merci Roger. Ça va, tu faiblis pas beaucoup, hein?
Non, je faiblis pas, non, mais okay. Oh, je suis un peu fatigué quand même, là.
Qu'est-ce que ça sera quand tu seras plus fatigué, alors? Une auditrice, voilà, ça c'est le genre de réflexion que j'aime beaucoup. Une auditrice nous dit que Radio Courtoisie cesse de faire chorus avec un journal dont je ne citerai pas le nom pour dénoncer ce qui se dit sur le ministre Hervé Guémard. Je ne vais pas dénoncer, je dis que c'était très bien. Il a 74 enfants ou 87 enfants, je ne sais pas combien il en a. Enfin, il en a beaucoup en tout cas. Et donc il a 600 mètres carrés de. C'est bien son droit après tout. Je dis que c'était très bien. Pourquoi
j'ai. Moi, quand je dis ce que j'ai dit, je.
Franchement, en regard de l'argent public gaspillé d'une façon monstrueuse, et à dire une émission qui s'appelle Combien ça coûte, pas si mal faite à la télévision, où le présentateur s'amuse à cumuler toutes les gaspillages les plus stupides qui peuvent être faits, même avec des études très brillantes au départ, genre parking où on ne peut pas rentrer parce que les places sont trop petites. On a même vu un porte-avions qui était trop court pour que les avions décollent.
Oui, on a vu ça.
Etc, etc. Face à tous ces milliards, honnêtement, 600 mètres carrés pour M. Guémard, ça me paraît vraiment être une goutte d'eau dans la mare.
Ouais.
Honnêtement.
Moi, c'est pas trop ça. Moi, j'en ai marre que l'on donne raison aux anards, voilà. Hein, moi, j'ai 76 berges le 21 mars. Bon, ça fait quand même quelques années où je vois que ce sont toujours les anards qui ont raison. Hein. Nous, on se défonce, on se bat, on essaye d'être de bons citoyens. On a fait le service militaire, on a fait l'armée, on paye nos impôts et tout, et on passe toujours pour des cons, quoi. C'est toujours les anards qui ont raison. Alors, ces types, personne ne les oblige à être ministres. Mais s'ils sont ministres, ben, qu'ils fassent en sorte que leur conduite ne retombe pas sur les Français honnêtes. Voilà, parce que ça, c'est une goutte d'eau, je suis d'accord avec toi, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais il y en a marre, alors qu'ils arrêtent toutes ces émissions où ils nous parlent des Français malheureux. Là, les lycéens sont dans la rue. Alors le mec, il a 15 ans, l'autre, il chiffre jamais, il dit il faut tant de profs en plus, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Ah, mais il n'y a pas d'argent. Tous les jours, on entend ça, il n'y a pas d'argent. Bon, mais c'est vrai que lorsqu'on était lycéen, on n'allait pas demander des milliards à l'État ou des milliards aux ministres. Mais enfin, on avait peut-être un peu une notion aussi de la valeur des choses. Bon, ils ont fait de ces gosses des gosses qui ne savent plus la valeur de rien. D'ailleurs, ils ne connaissent rien. Enfin, quand je les entends parler, des fois, je suis étonné parce que ils parlotent pas mal. Ils ont une bonne tchatche, mais quand on les connaît un peu, on s'aperçoit que derrière la tchatche, il n'y a pas grand-chose, étant donné qu'il n'y a plus l'honneur, il n'y a plus la patrie, il n'y a plus le respect du travail, de papa, de maman. Alors, quand on enlève tout ça, est-ce qu'on peut vivre que sans avoir tout ça dans la tête? Oui, c'est sûr qu'on peut vivre sans avoir tout ça dans la tête, mais est-ce que ça peut mener le pays loin? Non, ça ne mènera pas le pays très loin. D'ailleurs, on s'aperçoit que la moitié de la France n'est plus sous contrôle de l'État.
Merci Roger. Bon. À bientôt.
Eh ben,
on annoncera de nouveau ce.
Moi, je t'ai laissé la colossale choucroute.
Dîner de la colossale choucroute.
Enfin, bon, on a fait du stock. Hein. Il y a de quoi nourrir la grande armée. Hein.
Merci. Mon cher Claude Simplet, vous êtes un spécialiste du Togo, alors j'aimerais bien que vous essayiez de nous éclairer sur ce qui s'y passe en ce moment. C'est quand même une situation un petit peu confuse, non?
Un spécialiste, je n'irai pas jusque-là, disons qu'à la différence de beaucoup d'autres qui peut-être se prétendent, eux, spécialistes, j'y ai passé 15 ans de ma vie et 15 ans dans l'environnement d'Ayadema. Alors, ça me donne peut-être le droit
peu,
de connaître certaines choses.
Vous en avez croqué un peu, vous aussi?
J'en ai vu passer beaucoup.
Ah, vous en avez...
Oui, j'en ai vu passer énormément.
Je sais pas, moi, je rencontre toujours des gens qui ont... Mais moi, on m'a jamais rien proposé, quand même.
Ah, bon.
Si Ademem avait proposé de l'argent, je l'aurais accepté. Au moins, ça rapatrie un peu de fric.
Oui, ben, apparemment, il a arrosé beaucoup de monde.
Ah, pas moi.
C'est
ouais.
Clair. Ouais. Et d'ailleurs, il a été mis là pour ça.
On raconte ça dans le livre journal, je le signale aux auditeurs.
On raconte ça dans le livre journal, effectivement.
Des révélations assez troublantes dans le Libre Journal.
Bon, il semblerait d'une façon assez claire que ce monsieur qui était un obscur petit sous-officier, surtout connu pour ses talents de cuisinier dans son régiment d'ailleurs, mais ça c'est un autre discours.
Bouffer ses camarades là.
Non, n'exagérons pas. Même si paraît-il De Gaulle a dit un jour de lui, peut-être qu'il fera aussi bien que Bokassa. Donc, mais je n'ai jamais entendu parler d'histoire.
Heureusement que Roger est parti parce qu'on n'était pas sorti de l'auberge.
Oui, ça c'est sûr, c'est le cas d'Albert. Non, oui, je voudrais parler un petit peu du Togo, parce que c'est un pays qui vit des heures dramatiques, qui a vécu des années dramatiques. Et Yadema a pris le pouvoir un jour, parce que on lui a demandé de faire un coup d'État, c'est très clair. Un certain nombre de gens s'est cité dans les mémoires de Focard. Au départ, n'ont pas été d'accord avec le président qui est élu à l'époque de l'indépendance, qui n'était pas le poulain de la France et qui n'a pas dû avoir la docilité qu'il fallait. Donc 3 ans après, eh bien, on l'a fait débarquer un 13 janvier. Et dans l'assaut du palais présidentiel, Eyadema s'est vanté de l'avoir tué froidement. Pour laisser mettre à la place son beau-frère, c'est toujours une histoire de famille.
Le beau-frère de Olympio,
qui s'appelait Goninski. Goninski apparemment n'a pas fait l'affaire. Permettez-moi de vous couper une seconde,
si j'ose dire, mais quand même. Le chef de l'État togolais, qui était noir, comme son nom ne l'indique pas du tout d'ailleurs, parce qu'il s'appelait Nicolas Gruninski. Alors on s'attend plutôt à voir une espèce de Sibérien. Et c'est inattendu, non?
Ben oui, l'autre s'appelait Olympio, on connaît au moins l'origine, mais ça c'est différent. Vous savez que nous sommes là, sur ce qu'on a appelé très longtemps la côte des esclaves, et que si vous prenez l'annuaire du Bénin avec Dahomey, ou du Togo, et même une grande partie du Ghana, vous allez retrouver énormément de gens qui s'appellent
Pereira,
Olympio,
Mendes.
Da Silva, Mendes, Da Silveira, de Medeiros, De Amodio, etc., etc., etc. Et tout ça, en fait, quand on gratte bien, sont les descendants métissés de très très longue date d'un certain nombre de gens qui étaient venus essentiellement du Portugal après la Reconquête, puisqu'ils n'étaient plus en Espagne, et qui ont commencé à faire la traite des Noirs sur ces côtes. Et qui en ont assuré l'essentiel bien avant qu'on colle tout sur le dos de ces Français et de ces Anglais qui en ont envoyé quelques dizaines de milliers aux Antilles, mais qui n'ont jamais été responsables des 15 ou 20 millions d'Africains qui ont été expédiés aux États-Unis et réceptionné par d'autres de la même équipe, je n'en dirai pas plus.
Oui,
il y a eu à une époque un article dans le Libre Journal à ce sujet-là.
Un article absolument remarquable, comme la plupart des articles du Libre Journal, n'est-ce pas, cher Jean-Madiran? qui vient de faire son entrée, qui dit oui, mais de la tête. Hein, il ne veut pas que ça passe au micro.
Trop loin, je
ne peux pas dire que vous soutenez beaucoup la concurrence. Bon, alors donc
je reviens
tout ça n'explique pas l'assassinat de
mon histoire. Le fait que M. Grodzinski ait été plus proche de la France que M. Olympiot n'explique pas pourquoi on a donné ordre de liquider Olympiot. Et Olympiot ayant été liquidé, Grodzinski remis en place, apparemment, 3 ou 4 ans après, ben, ils n'osaient toujours pas l'affaire, c'est toujours ce que raconte Fokker dans ses mémoires, et ils se sont dit, ben, puisque Yadema avait réussi une première fois, il pourrait réussir une seconde, et en 69, Yadema fait un deuxième coup d'État, mais là, il garde le pouvoir.
Où on lui laisse et puis pouvoir. Il n'a pas tué Grodzinski, quand même.
Non, Grodzinski est parti, il est mort tout seul, enfin, il n'est pas mort sur place, en tout cas, il est mort 2 ans plus tard. Et là, il a commencé à se dire, je vais devenir un grand chef d'État. Pour devenir un grand chef d'État, il fallait qu'il ait quand même quelques idées, parce que c'était un type à moitié illettré, tous les témoignages sont clairs là-dessus, et moi-même, ce que j'en ai vu, je peux vous jurer qu'il ne connaissait pas le théorème de Pythagore.
Bah, moi non plus,
mais vraiment... non, pas là-dessus. Et donc, il s'est trouvé un parrain et un professeur. Le parrain, ça a été le général Mobutu. Mobutu était le grand frère, et tout ce que faisait Mobutu au Zaïre était bien, et il fallait faire la même chose au Togo. Ça a conduit, il y a des mains, à des trucs absolument délirants, à des réalisations économiques complètement farfelues. Évidemment, les besoins des pays n'étant pas les mêmes, les choses n'étaient absolument pas rentables, et on a vu débarquer une cimenterie, des groupes thermiques électriques, une raffinerie de pétrole, enfin toutes sortes de choses qui...
Un système de chauffage urbain extrêmement perfectionné.
Oui, mais qui sur place n'était pas forcément utile. Et puis, il s'est doté de structures politiques, et pour ça, il lui fallait un professeur, et il en a trouvé un tout de suite, ça a été Kim Il-sung.
Oh bah.
Et le Togo a été modelé sur la Corée du Nord, avec un parti unique
la qui s'appelle comme rien, quand même.
Le RPT, hein, le Rassemblement du Peuple Togolais, les jeunes embrigadés par ailleurs, un comité central et un régime policier, comme personnellement j'en ai jamais vu. Je sais que quand j'étais sur place et que, vu les fonctions que j'occupais, je voulais discuter discrètement avec quelqu'un, je l'emmenais sur le front de mer dans ma voiture et on roulait, et encore toute vitre fermée. Non, non, mais c'est pas une plaisanterie. Tous les gens dans tous les hôtels, dans tous les restaurants, étaient appointés par la sûreté et payés au renseignement 50 francs CFA de l'époque. Avec ça, ils ont bouffé leur famille pour la journée. Et il faut reconnaître que quand en plus on ne parle pas très bien français, on est capable de répéter un peu n'importe quoi, ça a quelquefois donné lieu à des choses assez curieuses. Mais enfin bon, passons.
Il ne fallait pas dire, hein, le président Yadema, il est à croquer. Que...
Voilà, c'est ça, ça pourrait être dangereux. On a vu des choses de ce genre. Bon, le problème en fait n'est pas là. Le problème c'est que pendant une trentaine d'années, petit à petit, le culte de la personnalité a pris des proportions absolument considérables. Et l'enrichissement du personnage a suivi, au détriment complet de la population et de tous les gens qui, quelque part, n'auraient pas été directement d'accord avec lui et auraient voulu construire autre chose. Son fils aîné s'est chargé, étant militaire, de l'administration de camps de rééducation, pour ceux qui en revenaient, les autres, on ne sait pas trop. Et la population, petit à petit, d'une colonie française, somme toute, comme le Bénin, ex-Dahomey, assez florissante, est devenue aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde, avec une diaspora colossale. Combien est-ce qu'il y a de centaines de milliers de Togolais qui sont partis? On n'en sait rien. Il y en a beaucoup en France, beaucoup en Allemagne. En Allemagne, ils sont aidés par le gouvernement allemand, pas en France. À l'heure actuelle, ils sont catastrophés de voir ce qui se passe. La répression à l'intérieur des frontières est terrible. Ils font des manifestations tous les jours devant les ambassades à Paris, à Bruxelles, à Berlin. Et tout ça, pourquoi? Parce que, envers et contre tout, M. Chirac, lors des élections de 2003, a soutenu Yadema et lui a envoyé un message de félicitations alors qu'il avait eu 20% aux élections. Le résultat de l'histoire est que d'une opposition qui était structurée avec des gens qui s'entendaient bien entre eux, ça a contribué à ce qu'aujourd'hui il y ait des factions rivales qui existent, et une opposition qui a du mal à se retrouver pour incarner vraiment le pays. Et ça n'arrange rien. Il y a eu, il y a 8 jours, après le décès de Yadema, un coup de force fait par son fils, qui était prévu. Alors la combine est fumante. Mais elle a bien réussi. Il était député et il est prévu au terme de la Constitution que le président de la Chambre des députés assure l'intérim avant qu'il y ait des élections faites pour élire le nouveau président. Donc, le président de la Chambre en exercice était à l'étranger le jour où Yadema est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Elle a fermé les frontières et il n'a pas pu rentrer. Le dimanche, il y a une réunion de la Chambre exceptionnelle où on a constaté que la présidence était vacante et qu'est-ce qu'on a élu à sa place ? Le fils d'Yadema, qui avait un vague strapontin de députés dans un coin.
Ils ont compris le fonctionnement de la démocratie, voilà. C'est tout. Ouais. Ils ont compris pour une
ils
fois.
Ils se sont très bien débrouillés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est président par intérim, avec, bien entendu, si un jour il fait des élections, toute possibilité de continuer à l'œuvre de son papa.
Il faut dire quand même que c'est un homme qui a écrit la Constitution togolaise. C'est un Français qui a écrit la Constitution
togolaise. Oui,
togolaise.
Mais dans la plupart des pays d'Afrique, ouais. ça a été le cas.
Vous vous souvenez son nom ?
Non. J'ai plus ça en tête. Ça a été un peu repris sur place, mais ça n'a pas en soi été mal fait. Ce qui est dangereux, c'est l'usage qu'on en fait, et c'est de voir qu'aujourd'hui, eh bien mon Dieu, ces Africains qui, pour beaucoup, ont acquis à travers leurs études en France, à travers ce qu'on leur a proposé par le FMI, par les autres travailleurs des constitutions, ils croient à ces institutions. Et ces institutions-là, c'est nous, si j'ose dire, qui leur avons fourni. Vous dites vous-même que la Constitution était écrite par les Français, qui nous la leur confisquons. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est très grave. Alors, l'avenir, eh bien, l'avenir, il est difficile, parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a un opposant emblématique, historique, depuis 30 ans. C'est le fils du président Limpio assassiné, qui est un homme charmant, mais qui a toujours vécu hors frontières, parce que s'il était rentré au Togo, il aurait été liquidé, et qui ne fait rien d'autre que essayer de rameuter des partisans, mais qui n'a aucune expérience politique de quelque ordre que ce soit. Et de l'autre côté, il y a une ou deux personnes de très grande qualité qui, soit sur place, se taisent parce qu'ils savent que si elles parlent aujourd'hui, elles risquent d'avoir droit au bouillon de 11h. N'oublions pas que nous sommes au pays du vaudou. Hein. Le vaudou d'Haïti, ça vient bien de la côte des Esclaves, ça vient de là. La Mecque, si j'ose dire, vaudou, est un village qui s'appelle Glidzi, qui est à 30 km de Lomé. Alors, je ne sais pas si les sorciers vaudou ont des pouvoirs surnaturels, mais ce que je peux vous dire, c'est que eux et d'autres sont très très doués dans le maniement des tisanes, si vous voyez ce que je veux dire. Et beaucoup de gens disparaissent comme ça, c'est très connu. Donc, les opposants sur place se taisent, et qu'est-ce qui reste en opposant hors frontières ? Eh bien, mon Dieu, un ou deux anciens ministres qui ont pu partir quand il en était encore temps, dont un que je connais fort bien, qui était le dernier premier ministre du Togo, qui s'appelle Guillaume Kodjo. Et Kodjo, un beau matin, écœuré de voir qu'il ne pouvait pas faire passer les réformes votées par la Chambre des députés parce que le président bloquait, a flanqué ses démissions en expliquant pourquoi, en laissant un testament politique aux journaux. Et il est arrivé en France en ayant des sueurs derrière des mains, un quart d'heure derrière lui à la frontière du Bénin. Et en France, tout à fait étonné de voir qu'il n'était pas du tout accueilli à bras ouverts par les autorités. On lui a dit, on veut bien vous recevoir, à condition que vous ne fassiez pas de blagues, et surtout pas de déclarations. Il s'est trouvé qu'il avait une interview qui avait été faite par RFO. Cette interview, lorsqu'elle a été programmée, a été interdite par l'Élysée. Il y en a eu deux pages dans le canard enchaîné à l'époque, c'était en septembre 2002. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où des gens veulent effectivement suivre les règles démocratiques qu'on leur a imposées, n'ont pas les moyens de pouvoir l'exprimer parce qu'ils vivent dans un régime de terreur que tous les gouvernements africains dénoncent. D'ailleurs, tous les présidents de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont été unanimes et ont convoqué le fils Yadema pour lui demander de se retirer. Et il est soutenu, en fait, par qui ? Par Chirac, comme son père l'était. Pourquoi ?
On se demande bien pourquoi.
Eh ben, mon Dieu, c'est bien sûr, quelque part, on ne peut pas ne pas l'évoquer, la fin d'un des maillons de la chaîne du réseau Focard. Voilà ce que je voulais vous dire.
Ce qui est intéressant au Togo, c'est que ça permet aux chefs d'État africains de donner des leçons de démocratie à l'un d'entre eux. C'est pittoresque, je trouve. Moi, je suis toujours admiratif quand les gens donnent des leçons de démocratie, surtout en Afrique.
Vous savez que c'est même peut-être pire que ça, des personnes autorisées dans ce genre de sérail se plaisent à dire que si Chirac a fait ce voyage que personne n'attendait en Afrique de l'Ouest il y a quelques semaines, qu'on savait très bien qu'Ayadema était en très mauvais état de santé, il était cancéreux, c'était quelque chose de connu, il était traité depuis plusieurs années, notamment en Italie à cause de ça, et qu'il était allé voir sur place si les gens accepteraient que son fils prenne la suite. Donc peut-être que les chefs d'État individuellement lui ont dit oui, oui, on ne sait jamais, peut-être qu'on acceptera, il est reparti plus ou moins content, mais il est certain que du jour où Faure Gnassingbé a pris le pouvoir, curieusement, toutes les instances officielles collégiales s'y sont opposées, que ce soit l'Organisation de l'Unité Africaine, que ce soit l'ONU, que ce soit même la Communauté Européenne et la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui vient de prier M. Faure Gnassingbé de bien vouloir rendre une présidence qu'il a usurpée et de laisser le Togo vivre et retrouver un régime politique où les gens peuvent parler sans risquer de se faire couper le cou.
Il a intérêt à y avoir un bon coffre-fort pour garder les documents que papa lui a légués. Ça lui assurera sa tranquillité avec les autorités françaises. Parce qu'il faut quand même rappeler que Chirac, Rocard, Mitterrand et tant d'autres étaient des amis personnels d'Ayadema. Et pour vous montrer la puissance du personnage, il faut quand même se souvenir que Rocard, Michel Rocard, avait publié dans une lettre une mise en garde à l'opposition togolaise en disant l'opposition au Togo est beaucoup trop radicale à l'égard d'un pouvoir, à l'égard du pouvoir du président Ayadema qui bénéficie d'une reconnaissance internationale. C'est Rocard qui écrit ça en parlant d'un des tyrans les plus sanguinaires d'Afrique. Ça prouve quand même que ce garçon, enfin ce Ayadema, il avait le moyen de se faire bien comprendre. Il l'explique bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi à propos de... Je conseille la lecture de votre article dans le Libre Journal, qui est beaucoup plus complet que ce que, vous nous en avez livré à Radio Courtoisie, parce que vous êtes un homme de prudence, mon cher Simplet. Des astuces, contrairement à ce que votre nom pourrait laisser croire.
Ah oh ben ça, c'est une petite pirouette. Hein.
Merci beaucoup, Claude.
Je vous en prie.
Voilà, on va complètement changer de sujet. On va parler d'un livre, enfin d'une brochure qui est parue il y a relativement récemment et qui s'appelle « Bref, examen critique du nouvel Ordo Missae ». Et j'ai autour de cette table, autour des micros de Radio Courtoisie, trois personnes qui sont particulièrement bien placées pour en parler. C'est l'homme qui a décidé de faire cette réédition, qui est Michel de Gégère de Renaissance catholique. L'homme qui a présenté la réédition par un historique de l'affaire et qui est M. l'abbé Barthes, et l'homme qui était probablement à l'origine, du bref examen critique, mais de sa publication, de sa mise en lumière, c'est Jean Madiran, qui à l'époque avait écrit des choses.
Disons que j'ai été le prédécesseur de Michel de Gégère.
Voilà. Alors la première question, je vais la poser à Michel. Michel de Gégère, est-ce que c'est encore un sujet d'actualité, 40 ans après, plus de 40 ans après, est-ce qu'on peut encore enseigner quelque chose, découvrir quelque chose, apprendre quelque chose en lisant ce bref examen critique? En somme, à quoi ça sert de le rééditer?
Ben, il faut dire deux mots de ce qu'est le bref examen critique, qui est l'œuvre d'un groupe de théologiens qui ont étudié, je dirais presque ligne à ligne, la messe de Paul VI, le nouveau rituel de la messe, et qui en ont fait donc une étude qui est assez brève, hein, qui est d'une quarantaine de pages, et cette étude a été endossée par le cardinal Ottaviani et le cardinal Bacci, le cardinal Ottaviani étant le pro-préfet du Saint-Office du temps de Pie XII et de Jean XXIII. Donc c'était un petit peu le lointain prédécesseur du cardinal Ratzinger et donc le gardien de la foi dans l'Église jusqu'au Concile et pendant le Concile. Et ce gardien de la foi a donc cautionné et présenté au pape Paul VI ce texte qui est une analyse critique de la messe de Paul VI qui met en évidence la disparition ou l'atténuation en tout cas du caractère sacrificiel de la messe, de la définition de la messe comme sacrifice propitiatoire au profit d'une vision de la messe plus proche de se rapprochant de la scène protestante. protestante et de la commémoration du repas du jeudi saint en enlevant son caractère sacrificiel et le lien intime qu'il y a entre la scène et la croix, entre la messe et la croix, et le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur l'autel. Et donc ce texte, le cardinal Ottaviani l'a présenté avec le cardinal Bacci au pape Paul VI par une lettre dans laquelle il dit des choses quand même extrêmement fortes, puisque dans cette lettre au pape, il écrit « Le nouvel Ordo Missae, si l'on considère les éléments nouveaux susceptibles d'appréciations fort diverses qui paraissent sous-entendus ou impliqués, s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 22e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. » Donc il ne s'agit pas d'un texte de circonstance, mais d'un texte fondamental, d'une critique fondamentale et doctrinale de la messe de Paul VI, et qui visait à demander à Paul VI, avant sa mise en œuvre, de renoncer à la mise en œuvre de la réforme liturgique et de maintenir la messe de Saint-Pie V. Alors mais pourquoi
ce texte n'a pas porté ses fruits hein, il y a 40 ans. Qu'est-ce qui permet d'espérer qu'aujourd'hui il va porter des fruits
Oui, alors d'abord, il n'est pas toujours nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et puis, bon, l'espérance est une vertu chrétienne.
Ce texte a porté de grands fruits il y a 40 ans. Je vous en dirai un mot tout à l'heure, si vous voulez. Car il a porté de grands fruits.
Alors, pourquoi
le flux de résistance, c'est important.
Voilà. Pourquoi le rééditer aujourd'hui? Justement, parce qu'il a porté des fruits et que nous voudrions prolonger ses fruits. Pourquoi aujourd'hui? Ben, parce qu'on est parti du fait que le pape Jean-Paul II est proclamé l'année de l'Eucharistie par la lettre apostolique publiée le 7 octobre 2004. Il a donc lancé pour l'année 2004-2005 une année de l'Eucharistie, et nous nous sommes dit qu'il serait malheureux. Vous savez que le jubilé de l'an 2000 a eu ceci de particulier, qu'on y a à Rome célébré la messe selon tous les rites, sauf selon le rite de Saint-Pie V, et que la messe de Saint-Pie V a été la grande absente du jubilé de l'an 2000. Eh bien, nous n'avons pas voulu que la messe de Saint-Pie V soit la grande absente d'une année de l'Eucharistie. Et donc, pour défendre la messe de Saint-Pie V, il nous a paru que le plus utile, le plus nécessaire, le plus efficace était de répandre, de republier, puisque ce texte a été publié à de maintes reprises, mais d'essayer de répandre ce texte, parce que ce texte a été justement le texte fondateur de la résistance à la réforme liturgique, et dans une certaine mesure, c'est un des textes fondateurs du traditionalisme catholique. Donc, ce texte qui a été effectivement, comme vous le disiez, publié par Itinéraire et répandu en France par Itinéraire, par Jean Madiran, par l'abbé du Lac.
L'abbé de Nantes.
Et par l'abbé de Nantes également.
C'est même le premier, je crois,
qui a publié
une édition pirate d'ailleurs.
Non, ça c'est tout un problème, de savoir si c'est une édition pirate ou non. Moi ce que je sais c'est que, mais c'est une autre histoire, c'est qu'on a fait dire, on a fait signer au cardinal Ottaviani qui n'avait pas autorisé la publication de ce texte, alors que ça n'est pas vrai.
Ça on va en parler tout à l'heure, parce que vous en apportez la démonstration. Oui. Et
ce qu'il y a, c'est que l'abbé de Nantes l'a publié... Un peu prématurément. Disons qu'il était sous embargo.
Ah, c'est ça.
Et qu'il l'a publié parce qu'il s'est dit, mais ça c'est toute l'atmosphère de l'époque, parce qu'il s'est dit, et qu'on se disait, finalement ça ne sortira pas. Parce que d'abord 22 cardinaux devaient le signer, la lettre au Saint-Père présentant le... Ensuite 8, et puis ensuite il n'y avait plus qu'Ottaviani et Bacci. Et alors est-ce qu'ils vont en tenir eux aussi?
Voilà. Il ne resterait plus qu'un.
Mais on ne peut pas dire tout à fait, si vous permettez, d'avoir fondé le traditionnalisme catholique. Parce que la résistance catholique étant tout à fait antérieure. Parce que juste avant, pendant les années précédentes, il y a eu la crise très, très violente. Très profonde et très large, de la suppression des catéchismes. Et qu'on s'est beaucoup battu sur les catéchismes. Donc, il y avait tout un groupe de personnes et de familles pour qui la nouvelle messe a été une catastrophe, mais pas une surprise. D'autant qu'il y avait eu l'affaire de la messe normative, quelques ans auparavant, qui était à peu près exactement, substantiellement, ce qu'a été cette messe-là, que l'épiscopat, c'était qu'une grande partie, une majorité de l'épiscopat s'était manifestée contre, qu'on espérait d'ailleurs, que, puisqu'on lui avait soumis la messe normative, qu'il y aurait un autre synode épiscopal, et tout le monde ne faisait que parler de la résistance des évêques. La résistance des évêques qui a été égale à zéro à ce moment-là.
Non, je parlais de texte fondateur parce que il me semble que sur le plan de la résistance liturgique, sur le plan de la messe, ce texte a joué un rôle fondamental, qui est de montrer que cette résistance n'était pas une résistance de nostalgique, de sensibilité, mais une résistance doctrinale. Et que ça a été un petit peu le bréviaire, disons, de la résistance doctrinale à la réforme liturgique.
Je ne dirais pas que la résistance était nostalgique. C'est ce qu'on a raconté contre elle. La résistance était tout à fait doctrinal, comme des gens comme l'abbé du Lac, comme le père Calmel,
ce texte a montré que ça n'était pas de la nostalgie.
Ce qui a manqué à ce moment-là, et Ottaviani et Vatian étaient les seuls, ce qui a manqué à ce moment-là, c'est que dans cette résistance catholique, il n'y a pas eu un seul évêque. Pas un évêque. Et ceux à qui on a demandé, quelquefois même à demi publiquement, de se manifester sur la messe, de dire quelque chose sur la messe, eh bien, ils ont laissé des individus, dans le privé, ils disaient ce qu'ils en pensaient, mais il ne s'est pas trouvé un évêque qui ait eu la grâce et le tempérament de controversiste, disons.
Hein? D'ailleurs, on voit que ça n'a guère changé, puisque vous avez publié dans Présent une analyse récente, tout à fait passionnante, du dernier texte du pape, qui montre que sur la question de la vie, sur la question de la défense de la vie et du combat contre l'avortement, les évêques français n'ont fait aucune représentation.
Mais là, c'était mondial. Hein. C'était mondial. Et c'était parce que pour parler à ce moment-là au peuple chrétien, aux gens qui disaient mais alors qu'est-ce qu'on va faire, alors on disait moi je peux vous donner une réponse, moi-même j'ai été un des premiers à une réponse en disant moi je vous donne une réponse sans aucune autorité. Le père Calmel, quand il disait, mais moi je vous donne une réponse, je suis un prêtre dominicain, fils de Saint-Dominique, mais je fais une déclaration, je ne célébrerai jamais la messe nouvelle, mais je vous le dis, je n'ai pas autorité pour vous le dire. Et ce qui a d'exceptionnel, ce qu'il y avait, il y a eu une autorité, une seule. Une seule. Et c'est là, effectivement, que tout ce que vous avez dit, et même au-delà, est absolument vrai pour ceux qui ont vécu cette époque, surtout dans un poste même très modeste, mais un poste quand même de responsabilité, c'est qu'il y avait, il y a eu quand même quelqu'un ayant autorité dans l'Église, ayant autorité épiscopale. Plus l'autorité morale
qui a présenté
l'autorité morale était importante pour les raisons que vous avez dites, puisqu'il avait été le grand défenseur de la foi, puis chargé fonctionnellement de la foi, mais puis de toute façon, évêque. Un évêque.
Donc membre de l'Église enseignante.
Mais membre de l'Église enseignante qui parlait, qui posait une question. Et c'est ça l'actualité aussi de ce.
Et il y a quelque chose aussi, puisque il y a quelque chose de très actuel, puisque c'est comme dans ça, tout est très actuel certainement. Mais il y a quelque chose que je trouve très actuel, c'est qu'il demande, je vais prendre votre texte, ou le bien, peu importe, il demande dans sa lettre à. Ah non, attendez. Dans sa lettre. Merci. Parce que c'est une lettre, il présente le bref examen, mais il le cautionne, comme vous dites, mais il adresse une demande. Et cette demande, il prononce le mot d'abrogation. Et depuis, peut-être que la résistance, certaines parties de la résistance ont un peu faibli, ou ont jugé qu'il était trop tard après 30, 40 ans de 30 quelques, qu'il était trop tard pour demander l'abrogation. Et il la demande dans ces termes très brefs, mais définitifs, et qui nous ont été un secours. Toujours les sujets. Et là, il s'adresse au pape. Non pas en évêque, mais en simple. En membre de l'Église enseignée. Car les membres de l'Église enseignante sont eux-mêmes membres de l'Église enseignée. Mais, enfin, c'est souhaitable. Mais tous les sujets, sans exception, pour le bien desquels est faite la loi, ont le droit et plus que le droit, le devoir, si la loi se révèle tout au contraire nocive, de demander au législateur, qui est le pape, avec une confiance filiale, son abrogation. Et ça fondait la légitimité de notre réclamation, le très saint père rendez-nous le catéchisme, l'écriture et la messe, n'est-ce pas? Ça fondait véritablement, mais ça fondait. Ça nous apprenait, enfin, quand on avait été un peu étudiant, ça nous apprenait rien, mais ça authentifiait le fait que tous, le plus simple fidèle, était fondé à s'adresser au législateur pour lui demander, pas lui imposer, mais lui demander l'abrogation. Et je pense qu'il serait encore utile aujourd'hui qu'il y ait une forte demande de l'abrogation.
Certainement.
Ne serait-ce que... comment exprimer cela? Ne serait-ce que pour avoir quelque chose à céder dans une
négociation.
Dans une négociation.
Disons que la différence de circonstance, c'est qu'il s'adresse à lui avant la mise en application.
La loi est proclamée.
Oui, elle est promulguée. Oui.
Elle est promulguée. Oui, c'est vrai. Elle est promulguée. Oui.
Elle
est promulguée.
Elle entre en application.
Puisque l'abrogation, et il dit bien, n'est-ce pas, la loi, si la loi se révèle nocive, elle peut se révéler nocive qu'à un moment de son application.
Bon, mais pour revenir à l'actualité même, on va revenir sur ce que vous expliquez qui est passionnant, j'aimerais dire, mais dans l'actualité, la question quand même, c'est alors aujourd'hui à qui est-ce destiné? Peut-être justement à ceux qui éventuellement suivraient la voie que Jean Valera indique, c'est-à-dire d'un sursaut des consciences, d'un nouvel appel à l'abrogation.
Si vous voulez, moi je dirais qu'elle est destinée comme à l'origine à l'Église enseignante, aux autorités de l'Église. C'est une question qui a été posée, qui est quand même capitale, sur la catholicité du rite de la messe, sur les faiblesses du nouveau rite, sur les gommages, sur donc la moindre expression du rapport entre le sacrifice de la messe et le sacrifice de la croix, le sacrifice propitiatoire, la présence réelle aussi, enfin des tas de choses donc fondamentales, très importantes, qui sont posées à l'autorité par un homme qui connaît sa doctrine, mais qui a fait plus d'ailleurs qu'endosser le texte, le cardinal Taviani, mais qui a même corrigé, qui a apporté certaines... Alors, on peut discuter, si vous voulez, des conclusions qu'il porte, qui seraient peut-être trop fortes. N'empêche que c'est un dossier considérable auquel il n'a pas été donné de réponse par l'Église enseignante. Donc, il est toujours d'actualité. Pardon, au moins pour ce point.
La Renaissance catholique pense que ça peut être un instrument utile de la défense de la foi et de la tradition dans le combat actuel.
Oui, c'est-à-dire que nous avons commencé, si vous voulez, on s'adresse effectivement à l'Église enseignante, on s'adresse aussi à l'Église enseignée. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les jeunes générations ignorent en général, ignorent très souvent les raisons doctrinales de la résistance à la réforme liturgique, soit qu'ils ne connaissent pas la messe de Saint-Pie V parce qu'ils n'ont pas été formés là-dedans, ils ne la connaissent pas, etc., ils ne connaissent que la messe de Paul VI et ils s'en contentent, soit ils ne connaissent que la messe de Saint-Pie V et ils sont très contents de connaître la messe de Saint-Pie V, mais ils y sont attachés comme à un héritage, une chose qu'ils ont reçue sans forcément avoir pris toute la conscience de la nécessité doctrinale de ce maintien de la messe de Saint-Pie V contre la réforme liturgique. Donc, encore une fois, ce que nous voudrions, c'est à ces jeunes générations leur faire comprendre que, comme le disait Jean Maillard, c'est pas une question de sensibilité, c'est pas une question de nostalgie, que l'enjeu, c'est la définition même de la messe. Moi, j'ai été très frappé l'année dernière de témoignages de jeunes gens au moment de la sortie du film de Mel Gibson qui, dans une ellipse formidable, montre le lien entre la messe et la croix. Mais j'ai rencontré un certain nombre de jeunes catholiques qui sont des pratiquants de la messe de Paul VI, qui ont été au catéchisme renouvelé, etc., et qui m'ont dit je ne savais pas, personne ne m'avait jamais dit qu'il y avait un lien entre la messe et la croix. Et je les crois d'autant plus que moi qui ai suivi le même enseignement immédiatement post-conciliaire, moi j'ai été dans tous les mouvements catholiques possibles et imaginables quand j'étais jeune, et j'ai appris à 19 ans qu'il y avait un lien entre la messe et la croix, parce que personne ne me l'avait jamais dit.
Et cela apparaissait, le point où ça apparaissait, qui était le plus sensible, et qu'on a fait sauter tout de suite, hein. Mm-hmm. C'était le fameux article 7 de l'Institution Généraliste qui donnait une définition de la messe clairement protestante. Une définition de la messe, on peut la lire.
Je crois que la Bévard enfin l'a cherché.
Oui. L'article 7, la publication de cela n'importe quel, quand même n'importe quel chrétien, même peu instruit, si on lui souligne, si on lui fait le commentaire des 10 lignes de l'article 7 dans sa première version, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà l'article, la scène du Seigneur, autrement dit la messe, est une synaxe, c'est-à-dire le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur.
Et ça, c'est la définition de la messe.
Il y a encore une phrase, je crois.
Le passage le plus important. Oui. Étant entendu que ce passage se trouvait, a été pris comme une définition de la messe, mais se trouvait dans la présentation, si vous voulez, comme externe de ce qu'est la messe. Il n'empêche que ça paraissait comme une définition, ça a été pris comme telle, et ça a été pris comme telle par le législateur, Paul VI, qui a jugé bon, après le bref examen critique, donc voilà un fruit, de changer le numéro 7, qui est devenu à la messe ou scène du Seigneur, on ne sait plus la scène du Seigneur, à la messe ou scène du Seigneur, le peuple de Dieu est convoqué ou rassemblé sous la présidence du prêtre qui représente la personne du Christ pour célébrer le mémorial du Seigneur ou sacrifice eucharistique.
Oui, donc, l'article 7, si vous permettez, rajouter, c'est la phrase, vous disiez, il y a encore une phrase après. C'est pourquoi ce rassemblement local de l'Église, ce qui veut, s'applique éminemment la promesse du Christ, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Ça s'y applique éminemment, mais c'est rien de plus. C'est rien de plus. Eh bien, quand même, même avec une mauvaise catéchèse, le jeune chrétien qui en a néanmoins appris, qui a une consécration, on a moins appris que dans la communion, plus ou moins bien, on lui a quand même dit que c'était le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit mais ça sort dans cette définition de la messe. Et alors là, c'était tellement évident qu'ils l'ont rectifié très vite, mais ils avaient indiqué là dans quel esprit était faite la nouvelle messe, et la nouvelle messe qui a été faite dans cet esprit, ils n'ont pas modifié.
On pourrait en dire autant de tous les documents postérieurs qui rappellent ce qu'est le sacrifice, par exemple Ecclesia de Caristia, qui rappelle ce qu'est le sacrifice eucharistique, mais qui ne change rien à son expression liturgique, rituelle.
C'est quand même tout à fait, je crois qu'effectivement c'est une opportunité tout à fait juste à laquelle nos amis de Renaissance catholique ont pensé, qu'ils ont exploité à juste titre l'année de l'Eucharistie. Mais l'année de l'Eucharistie, c'est l'année de la messe, c'est l'année du bref examen critique de la messe que l'on nous donne. Ça, c'est tout à fait excellent.
Michel, vous voulez dire quelque chose? Oui, dans les publics, il y a un autre public, c'est le public des jeunes prêtres. Nous avons aujourd'hui, il y a dans une sorte d'un certain nombre de séminaires, un certain nombre de jeunes prêtres qu'on dit identitaires, qu'on dit relevés de la génération Jean-Paul II, qui sont très souvent de bons prêtres, qui ne sont pas les héritiers des curés en civil des années du post-concile, mais qui ont vraiment le désir, la volonté de retrouver le sens du sacré, de retrouver le sens de ce qu'est véritablement la messe, mais qui ont été formés à la messe de Paul VI. Et nous adressons à eux. C'est la raison pour laquelle nous avons même mis en place une souscription, c'est-à-dire que nous proposons aux gens ce bref examen, donc qui est un petit livre qui est en vente au prix de 10 euros. Nous proposons aux gens de nous envoyer 5 euros et l'adresse d'un prêtre, ou 10 euros et l'adresse de deux prêtres, et etc., etc. Puis ils peuvent aussi envoyer un chèque sans adresse de prêtre s'ils n'ont pas de prêtre qu'ils connaissent. Nous ferons suivre. Pour chaque somme de 5 euros que nous recevons, nous adressons gratuitement le bref examen à un prêtre qui dit la nouvelle messe. Alors évidemment, la cible, ça n'est ni le prêtre totalement révolutionnaire dont on peut supposer qu'il se fiche des critiques du cardinal Ottaviani, ni le prêtre qui dit pieusement sa messe de Saint-Pie V depuis toujours parce qu'il connaît l'argumentaire, mais c'est plutôt ce type de prêtre-là. Il me semble qu'il y a là une patte qui ne demande qu'à être levée, et nous voudrions contribuer à les faire réfléchir, et éventuellement contribuer à faire en sorte que ces prêtres posent des questions à leur évêque. Oui.
On donnera tout à l'heure, Michel de Jeugeur, l'adresse de Renaissance catholique à laquelle on peut commander ce livre et à laquelle on peut envoyer 5 euros pour le faire adresser à un prêtre. Mais je voudrais me tourner vers l'abbé Barthes qui veut dire quelque chose, et puis moi je poserai une question après.
Alors, ce que je voudrais dire, pour approuver Michel de Gégère, tout en tenant une bonne idée de question, vous dites que c'est très important pour la formation des jeunes gens qui fréquentent donc la messe de Saint-Pie-Saint sans plus trop savoir pourquoi, ce qui est exact. Mais justement, leur rappeler que dès l'origine, cette célébration de la messe de Saint-Pie-Saint a été fondée sur une question posée à l'Église enseignante. Jean Madiran, je le sais bien mieux que moi, à l'origine, nous qui, les anciens et ceux qui les suivaient, assistaient, promouvaient la messe de Saint-Pie-Saint, la faisaient célébrer, on votait avec nos pieds, on posait une question de l'Église. Enfin, bon. Ensuite est venu un temps très heureux, sans doute, d'installation du monde traditionnel, qui était très favorable parce que précisément la messe de Saint-Pie-Saint s'est multipliée, s'est installée dans des églises. Enfin bon, il y a toute une histoire. Mais les jeunes gens peuvent oublier cela et peuvent devenir, je vais les critiquer, peuvent devenir des consommateurs du Saint-Pie-Saint. Il faut qu'ils se souviennent que par essence, ils sont des militants, de l'église militante au sens le plus fort du terme.
Et que ce faisant, ils posent toujours des. Il faut lutter contre une espèce d'esprit communautariste qui est qu'au fond, on a, nous, notre messe, notre catéchisme dans notre petite paroisse, notre troupe de scouts, et donc le problème est réglé.
Voilà, c'est de l'Église entière qu'il s'agit.
Mais c'était quand même. Moi, je considère que ça a été et c'est toujours un travail essentiel, justement, de fonder de petites communautés, de scouts, de paroisses ou de pseudo-paroisses, parce que c'est ça qu'il faut, c'est cela qu'il faut développer. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un développement inorganique. Et inorganique. Et il faut reconnaître que, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, n'est-ce pas, que le principal centre de résistance pour la messe, de résistance active, ça a été, c'est la fédération, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Ce qu'il y a, c'est que ce qui les gêne un peu, et même Tissier de Malleret, dans son excellente biographie, est un peu gêné là-dessus. C'est qu'ils ne veulent pas dire, ils veulent pas dire pourquoi Mgr Lefebvre, si longtemps, n'a rien dit en public.
La question est posée par
en public sur la messe. Par un auditeur.
Oui.
Ben, y a deux raisons qui sont très claires. La première, c'est que, j'y ai fait allusion tout à l'heure sans donner de nom, c'est que Mgr Lefebvre n'était pas par nature un controversiste.
Voilà. Justement, c'est la question qui est posée.
Ah oui, pourquoi n'avez-vous
pas cité Mgr Lefebvre
parmi les controversistes ? Deuxièmement, c'est qu'à ce moment-là, il se préoccupait déjà au moment de la messe, il se préoccupait déjà de, c'était son intention de former des prêtres, de fonder une entreprise, une structure, un séminaire, en tout cas, pour former des prêtres, et qu'il pensait devoir les former dans la discrétion. Et il faut, on culbute un peu, il faut aussi se pencher un peu sur l'histoire de ce qui a été vécu, si on veut comprendre les choses. Et donc sa position est tout à fait normale, et Mgr Lefebvre n'est sorti de son silence public, que lorsqu'un séminaire commençait déjà à fonctionner, et que par les attaques et les calomnies lancées par l'épiscopat français, il s'est trouvé dans l'obligation de défendre son œuvre. Mais son œuvre à lui n'était pas dans son intention, et c'est pour ça que c'est pour cette raison tout à fait justifiable qu'il n'a pas été l'évêque qui aurait parlé. C'est parce qu'il avait à former des prêtres et qu'il voyait très bien qu'il fallait les former dans la discrétion. D'ailleurs, ça a été l'histoire justement de l'accusation de faire des séminaires sauvages, le séminaire sauvage des cônes, etc., etc. Et alors c'est à partir de ce moment-là que, puisqu'il le fallait, il s'est mis à riposter publiquement parce qu'il était contraint.
Mais il y a eu un jeu d'affrontement et contre-affrontement, le fait de la célébration.
Mais je sais quelquefois, les gens me disent, mais enfin, pourquoi vous dites pas que Mgr Lefebvre a été le premier évêque à, etc. Je dis pas parce que tout simplement parce que c'est pas ça, et je dis et quand ils me disent mais comment, je dis citez-moi au besoin, en demandant à son biographe officiel Tissier de Malleret, citez-moi la date du premier document public de Mgr Lefebvre contre la nouvelle messe.
Voilà. Mais il a été le premier
mais
évêque.
C'est tout à fait, mais c'est tout à fait explicable. Ça,
il a été le premier évêque à faire des évêques Saint-Pierre. Des évêques, oui, aussi. Mais d'abord,
ça, c'est un autre problème.
C'est un problème. Prêtre Saint-Pierre V.
Mais
comme tel.
Parce qu'il s'est s'occuper de former des prêtres qui soient formés doctrinalement et qui et des prêtres pour la messe traditionnelle.
Il reste quand même, quel que soit l'intérêt de votre explication, Jean Madian, que si la tradition est ce qu'elle est aujourd'hui en France, c'est essentiellement grâce à Monseigneur Lefebvre. Je veux dire par là que si le complot contre la vraie messe a échoué, parce que et c'est la question que je vais poser à Monsieur l'abbé Barthes, si le complot a finalement pas complètement réussi, c'est parce que il avait préparé ces séminaires entre guillemets sauvages, que d'autres avaient préparé un corpus de lutte contre le complot qui est d'ailleurs représenté par ce bref examen critique entre autres, et que ça a empêché une vague.
Non, mais bon, ça fait aucun doute. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on la critique ou qu'on la critique pas, sociologiquement, la plus forte de la résistance, aujourd'hui encore, la plus forte de la résistance, est par ses écoles. Et par ces écoles, on croit qu'en France, ils sont à 23 ou 24 collèges pour les garçons. Pour les garçons, pour les filles, c'est toujours un peu plus ou moins bien. Il y en a toujours eu plus ou moins grâce aux religieuses. Mais pour les garçons, c'est sociologiquement le plus fort point de la résistance.
C'est vrai, mais...
J'ai utilisé le mot de complot contre la vraie messe, c'est probablement exagéré, mais... Donc je vous pose la question. Est-ce que, à votre avis, ceux qui ont conçu la nouvelle messe à l'époque étaient des gens qui croyaient réellement rendre plus accessible aux fidèles, comme ils l'ont dit, une liturgie qui devenait obscure parce que c'est une liturgie en latin, parce que c'est une liturgie un peu lourde dans ses apparences, héritée du passé, héritée des fastes du 19e, etc. Ou est-ce qu'il y avait vraiment une intention délibérée de détruire le sacrifice de la messe en tant que...
L'un et l'autre, mon colonel.
Mais
je dirais que c'est une idéologie, véritablement, c'était des idéologues. En plus des zones de parti, que j'ai connues de l'intérieur.
Des partis révolutionnaires. À l'époque, je les accusais de jacobinisme liturgique.
Et donc, ils fonctionnaient véritablement avec un esprit de parti, voulant détruire le passé et les hommes du passé aussi, surtout ceux qui représentaient les hommes du passé. Il y a qu'à voir comment Ottaviani, avant même, le cardinal Ottaviani, avant même de signer ce bref examen critique, a été la tête de turc, la représentation de tout ce qu'il fallait éradiquer.
Alors qu'ils ont eu on pourrait penser qu'il y a d'une part la volonté d'en finir avec un passé vieillot, un peu ridicule, dans son apparat, etc. Pour revenir, comme on nous disait, moi quand j'étais gamin, on nous expliquait, notre aumônier, qui était naturellement complètement dans ce mouvement, nous expliquait qu'il fallait en finir avec toutes ces bêtises, qu'il fallait faire des calices en terre cuite, qu'il fallait célébrer la messe en babigros. J'ai souvenir de ça, quoi.
Mais il y avait effectivement. Il y a une erreur. Si on veut me prendre. Il y a une erreur qui se ramène. Mais à cette triste bêtise, mais elle a été énoncée comme ça, et par des docteurs épiscopaux. C'est que le monde change, il faut que la religion change.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais c'est un niveau. Alors là, c'est un niveau d'inculture et de bêtise.
Oui, mais la question,
plus profondément.
Est-ce qu'il s'agit simplement de la connerie du temps, passez-moi l'expression, ou est-ce qu'il s'agit d'une volonté mauvaise qui consiste
à dire aussi...
la messe a un effet on va hurler quand je vais dire ça, je dis quand même, un effet magique. Comprenez ce que je veux dire. C'est un phénomène qui a un effet direct sur ceux qui assistent.
Surnaturel.
Surnaturel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc il fallait faire disparaître cet effet surnaturel.
Je voudrais répondre à votre question. Je pense que il faut voir le phénomène plus global, qui est celui du concile. Concile pris comme un bloc, comme dirait Clémenceau. Et donc une volonté, en effet, d'inculturation au sens très large, c'est-à-dire de rendre le message accessible, etc., au monde contemporain. Mais avec cette idée, pour simplifier les choses, ce fondement œcuménique, qui est une grande part de toute cette affaire. Et dans l'œcuménisme, cette idée que pour unir tous les chrétiens, et au-delà même des chrétiens, mais d'abord pour les chrétiens, il faut en revenir à un état dogmatique antérieur à celui de la séparation. Bon, le gros l'os dogmatique, c'est le Concile de Trente. Bon, la grande idée, toujours à l'heure actuelle, hein, de l'œcuménisme, c'est cette espèce d'involution dogmatique. Ça, c'est très fort. Et si vous voulez, la nouvelle messe a été bâtie sur ce schéma d'involution. On en revient. Elle était faite par deux sortes de personnages. Hein. Elle était faite par des professeurs. Donc il y avait cette idée en tête, plus des pasteurs rationalisants. Donc on en revient à un état dogmatique antérieur, avec des arêtes dogmatiques moins fortes, de telle sorte que. Alors, si vous voulez, c'est, par exemple pour l'Eucharistie. On va en revenir à des formules, à des idées antérieures aux définitions du Concile de Trente et donc de saint Thomas. On va laisser de côté le terme de transsubstantiation pour parler aujourd'hui. On parle beaucoup de mystagogie, par exemple, hein, oui. Catéchèse donc des pères de l'Église concernant l'Eucharistie. Et ça va se traduire, ça s'est traduit dans la nouvelle messe, c'est-à-dire quelque chose de plus flou, pour ce qui est de la présence réelle. Donc on va supprimer toute une série de marques de respect du Saint-Sacrement.
Vous avez rédigé, enfin vous avez fait l'historique dans cet ouvrage qui vient de paraître, le Bref Examen Critique. Vous avez assuré le commentaire historique, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un seul en dehors de carnet d'Ottaviani après, oui. Est-ce que pendant l'élaboration de ce complot il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est dressé pour dire écoutez, c'est pas possible.
Non, enfin moi, complot si vous voulez, mais complot, alors vraiment au sens très large, une espèce de mouvement général.
Mouvement, voilà.
Parti, qui date de très longtemps. Cette affaire-là, c'est au fond la pensée moderniste. Hein,
oui, mais justement, la pensée moderniste, elle a été dénoncée en son temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est dressé pour dire écoutez, il faut arrêter cette folie.
Oui, la grande affaire était celle des années 50. Celui qui s'est dressé, c'est Pie XII. Quand, dans les années 50, dans tout le mouvement qu'on appelait la nouvelle théologie, et qui a engendré le parti dominant du Concile, ceux qui ont pris le pouvoir doctrinal, avec toutes leurs tendances et leurs nuances, hein, parce qu'ils ne sont pas un parti monocolore. Donc ces gens-là, avec Congar en France, Chenu, mais Congar certainement est un personnage particulièrement important. avait pour idée, c'est ce que je suis en train de développer, à savoir gommer les arêtes dogmatiques du christianisme, notamment à travers la traduction scolastique de ces dogmes.
Oui,
ils ont eu contre eux aussi des tas de gens qui se sont dressés, mais qui étaient déjà un petit peu marginalisés au sein de l'Église de France.
Mais en même temps quand même, vous comprenez, quand un homme comme Annibale Bugnini disait publiquement, nous avons fait une messe qui est plus merveilleuse que tout ce qu'on a vu dans les 20 siècles précédents. Et que son clan, dominant d'ailleurs, ne lui fermait pas la bouche. Et qu'ils avaient tous un peu ce sentiment-là. Alors Benigni le disait avec une exagération grotesque. Mais il y avait quand même l'idée Ils étaient la génération d'évêques la plus épatante qu'on ait jamais vue. Avec néanmoins, ceci, ce que je me souviens très bien, Mgr Lefebvre me disant, croyez-moi, la plus grande partie des évêques sont contre cette messe. Et c'était vraisemblable, puisque 2 ans avant, lorsqu'en synode on leur avait présenté la même messe pratiquement sous le nom de messe normative, ils avaient à une majorité, pas massive, mais enfin une majorité d'évêques quand même. Ils s'étaient manifestés contre, ils l'avaient renvoyé.
Ouais, ils avaient beaucoup de blanchet du Samedou.
Ça ne marchait pas. Et donc, ils avaient eu quand même un réflexe juste. Mais il faut dire aussi que Paul VI y a mis tellement d'autorité.
C'est-à-dire que ce que montre notamment l'abbé Barthes dans son introduction, c'est qu'il y a une différence entre le concile et le post-concile, c'est qu'au concile, il y a la minorité conservatrice et que cette minorité arrive à obtenir des aménagements pour obtenir des majorités sur des textes. On finit par des textes qui sont un peu mi-chèvre, mi-chou, où il y a des aménagements pour la vérité. Alors que dans le post-concile et le concilium qui prépare la nouvelle messe, eh bien la minorité conservatrice a été totalement mise à l'écart. Donc c'est uniquement les représentants du parti qui a gagné le concile qui font la réforme liturgique.
C'est quand même frappant, on retrouve exactement la technique du centralisme démocratique. C'est le fonctionnement du parti communiste, enfin du président, c'est exactement ça. Or, il faut quand même dire qu'à l'époque, comme le dit d'ailleurs un auditeur, à l'époque, l'Église était totalement infestée par la vermine communiste qui rentrait par tous les bouts. Il y a eu des témoignages de prêtres qui ont expliqué comment ils avaient été envoyés au séminaire par le parti. Le mal infusait le corps de l'Église.
Oui, mais alors là, vous savez, dans cette question-là, moi, il y a un ecclésiastique français que j'ai dénoncé une fois au Vatican, alors qu'il n'était pas encore évêque. Et il a fait, le seul que j'ai dénoncé, c'est lui qui a fait la plus brillante carrière ecclésiastique. C'était le futur cardinal Billot. J'ai dénoncé sur des choses précises du Figaro qui disait ici on vous raconte ce que l'humanité cache à ses lecteurs. Oui, si. C'était une signature mystérieuse. En réalité, c'était Henri Barbet. Voilà. C'était
Henri Barbet-Sellor, de la bande Barbet-Sellor.
De la bande Barbet-Sellor, un ancien dirigeant du Parti communiste, de l'International communiste, n'est-ce pas ? Et Villoux, qui était alors secrétaire de l'épiscopat français, mais secrétaire non encore évêque. Depuis, ça a été obligatoire qu'il soit évêque. Demande à Brisson qui fait ses articles. Brisson lui dit, c'est un correspondant, je ne vais pas vous le dire, mais je lui demande si. Alors il demande à Henri Barbet. Henri Barbet dit, oui, dites-lui, je suis à sa disposition pour lui donner des explications. Après, un article sur la pénétration des communistes dans les séminaires. Brisson dit, ben voulez-vous que je vais organiser un déjeuner avec Henri Barbet, quand vous voulez. Villot répond, non, ce n'est pas la peine, voilà, je vous remercie, je sais maintenant ce que je voulais savoir.
Extraordinaire.
Eh bien, cet homme-là, d'autre part, vous comprenez, quand j'allais à Rome, on me disait, mais vous savez, c'est un bon celui-là, c'est un bon parce que, en France, là, il fait croire qu'il est de gauche, n'est-ce pas ? Mais en fait, c'est pas du tout. Nous, ici, nous connaissons ses vrais sentiments, n'est-ce pas ? Il est obligé, en France, de se faire passer à côté d'un épiscopat. Je disais, mais non, vous trompez, etc. Voilà.
Bien, alors, voilà.
Comme quoi, dénoncer les gens, ça ne sert jamais à rien. Et non. Cette dénonciation-là, qui est unique dans ma vie, je crois.
Assurer la carrière de vie.
Qui a porté le prix que vous voyez, eh bien, je n'ai qu'à m'en repentir.
Merci Jean-Marie de nous faire cette confession devant nous. Je n'ai pas personnellement le pouvoir, pas plus que Michel de Gégère, de vous absoudre, mais je pense que ça a déjà été fait. Par plus qualifié que nous. Michel, est-ce que vous voulez rappeler les conditions de...
Oui, si c'est possible, je voudrais poser une question à Jean Madiran.
Il nous reste 2 minutes.
Il nous reste 2 minutes. Bon, alors c'est simplement, il y a une idée qui court, qui est que le cardinal Ottaviani se serait rétracté et aurait démenti sa paternité pour le bref examen critique, aurait écrit une lettre disant qu'il était satisfait des explications qu'on lui aurait données. Est-ce que Jean Madiran peut répondre là-dessus ?
Très précisément. Il a écrit une lettre à Don Lafont, qui l'avait en principe communiqué une note injurieuse pour le cardinal Ottaviani. Et dans cette lettre, le cardinal Ottaviani dit à Don Lafont qu'il le remercie de cette note qui est en tout point excellente. Mmh. Voilà. Et dans cette note, il est dit des choses abominables sur Ottaviani. Il est dit que c'est lui, les choses qui sont le plus attaquées dans le bref examen critique, c'est lui qui les a proposées, que
oui,
des choses semblables. Et que il n'a jamais, et d'autre part, que cette lettre était secrète, était une lettre au pape, et que elle était secrète, et que il était contre sa publication. Or, je peux dire moi que c'est ce que j'ai écrit à l'époque, c'est ce que je vais vous donner de cela si vous ne l'avez pas.
Merci.
Je dis à l'époque, et ceci n'a été démenti en rien, où je somme le secrétaire d'Ottaviani de me poursuivre s'il n'est pas d'accord que je viendrai devant les tribunaux ecclésiastiques. J'affirmais là qu'en tout cas, en octobre, le cardinal Ottaviani a donné l'autorisation à l'abbé Raymond du Lac pour la publication d'un itinéraire et ailleurs. Et que 3 mois plus tard, le cardinal Ottaviani, parlant à ma personne, m'a bien confirmé qu'effectivement, il avait donné cette autorisation, et que d'ailleurs cette autorisation ressort dans son texte même, qui est celle de l'attitude d'un sujet, n'importe quel sujet, qui s'adresse au pape.
Merci Jean Madiran. Dans 2 minutes, l'adresse à laquelle vous pouvez vous procurer le bref examen critique. Bien, Michel de Gégère, alors l'adresse à laquelle on peut se procurer ce petit livre, qui est d'ailleurs remarquablement édité, comme tout ce que fait Renaissance catholique, c'est joliment fait. Ça s'appelle le bref examen critique.
Alors oui, je rappelle que ce bref examen critique est précédé d'une préface du cardinal Stickler, qui est toujours vivant, et qui donc fait lui aussi partie de l'église enseignante, et qui dit qu'il n'a rien perdu de son actualité, qu'il est également complété d'autres textes qui sont la bulle co primum instituant la messe de Saint Pie V et proclamant que tout prêtre pourra à perpétuité et sans scrupule de conscience la célébrer toujours et partout dans la Sainte Église, des textes de la 22e session du Concile de Trente sur la définition de la messe, d'une brève histoire de la messe par Daniel Raffard de Brienne et de l'histoire du bref examen critique par l'abbé Barre. C'est donc un petit livre qui est en vente au prix de 10 €, que vous pouvez commander à Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92-130 Issy-les-Moulineaux, donc 89 rue Pierre Brossolette, 92-130 Issy-les-Moulineaux. Donc il est en vente au prix de 10 €. C'est un petit livre d'une centaine de pages que vous pouvez également donner à vos amis. Et je vous rappelle que nous faisons une souscription pour envoyer gratuitement ce livre à des prêtres. Souscription, vous nous envoyez un chèque de 5 € ou plusieurs chèques de 5 €, avec éventuellement une liste de prêtres avec leurs adresses à qui vous souhaiteriez que nous envoyons ce livre.
Merci Michel.
Merci à vous.
Marie de Saint-Éloi, une annonce, puisque vous organisez régulièrement des conférences à l'usage des jeunes gens et des jeunes filles. Et vous... Oui, brillant, bien sûr. Et vous organisez là une conférence. Alors, qui aura lieu quand, où, avec qui?
7 février, donc jeudi 7 février pour les jeunes, avec Bernard Anthony
dans les Yvelines. Donc cette conférence se déroulera dans les Yvelines. Donc Bernard Anthony, vous le connaissez bien, c'est un orateur dynamique, président de Chrétienté et Solidarité et de la GRIF, sur le thème « Le suicide européen, constitution, Turquie, dénatalité ». Donc c'est pour nous une occasion de rencontrer Bernard Anthony et puis d'avoir des éléments de réflexion et d'analyse pour comprendre les enjeux de la constitution. Alors je répète, donc pour toutes les précisions, demain jeudi 17 février à 20 h précises, chez Louis de Lestang, donc qui est près de Saint-Germain. Alors pour s'inscrire, pour s'annoncer et s'inscrire, il faut contacter Louis de Lestang lui-même. Son téléphone 06 07 22 06 43. 06 07 22 06 43. Voilà, j'espère à demain.
Merci beaucoup. Bonne
Merci,
soirée.
Monsieur Decache.
Monsieur Deschamps, bonsoir. Vous êtes le président de l'association bonsoir. L'Enfant a des droits, qui est une association qui s'intéresse à la situation de l'enfant face à la justice ou de la justice face à l'enfant. dans les situations dramatiques de mariage rompu, de mariage brisé, de couples séparés ou divorcés. Je vous ai demandé de venir parce que votre association a ce site particulier que elle se différencie d'autres associations qui s'occupent soit exclusivement du cas des mères, soit exclusivement du cas des pères. Vous, ce qui vous motive principalement, c'est la situation de l'enfant dans ce genre de drame. Et surtout, apparemment, l'absence dramatique de compétences du système juridique ou du système judiciaire en France face à ces questions.
C'est ça qu'on va parler, en effet.
Vous avez publié 3 livres sur cette question que vous maîtrisez parfaitement. Un livre qui s'appelle L'enfance abîmée. Enfin, c'est 3 livres qui s'appellent L'enfance abîmée. Le premier, c'est Une histoire vraie. Le deuxième, c'est Un cri de révolte. Et le troisième, c'est Le retour à la maison, enfin. Et en quelque sorte, c'est une histoire qui nourrit de votre expérience personnelle.
Voilà, parce que j'y suis malheureusement passé. Alors, je m'empresse de dire d'abord qu'on n'est pas des adeptes de la rupture de la famille, bien au contraire, et que dans la rupture de la famille, les deux conjoints ne sont pas toujours d'accord. Je voudrais dire tout aussitôt que la première victime de la rupture, ce n'est jamais le père, ce n'est jamais la mère, c'est toujours l'enfant. Il n'y a pas de bonne rupture, il y a des ruptures plus consensuelles que d'autres, mais il n'y a que des mauvaises ruptures pour l'enfant. Pour l'enfant, c'est la perte de son monde idéal, c'est la perte de papa et de maman réunis, et qu'il ne verra plus jamais. Ça devient dramatique quand le conflit est tellement fort que papa ou maman, ou les deux, se servent de l'enfant comme objet du conflit. C'est dramatique pour l'enfant, vous l'imaginez. Alors, pourquoi cette association ? Ben parce que beaucoup de parents sont totalement démunis lorsqu'ils se trouvent confrontés à cette difficulté qui arrive dans leur vie. Jamais personne n'y est préparé, personne n'a l'expérience antérieure, et donc il faut faire face. Et lorsqu'effectivement on a voulu donner un nom à l'association, j'étais moi-même dans la souffrance, je revenais d'un itinéraire où j'avais été chercher mon petit bonhomme qui était à l'époque chez sa maman, et je lui avais parlé de cette idée sur laquelle il était lui-même tout à fait d'accord. Et alors je cherchais des noms en conduisant dans la voiture, les milliers et les milliers de kilomètres que nous avons fait ensemble, et puis je lui sortais un nom. Et l'enfant qui à l'époque avait 8 ans me répond « ton truc c'est nul ». Ton nom, il est nul. Ah, je dis oui, mais comment tu l'appellerais, toi, l'association ? Et alors, du tac au tac, sans réfléchir, il m'a répondu, l'enfant a des droits. Et je lui ai dit, ben, tu vois, c'est toi qui as raison. Parce que, en fait, dans ce problème de souffrance qui arrive dans la famille, c'est toi qui souffres le plus, et c'est de tes droits que, en effet, nous allons parler. J'ai donc réuni autour de moi un certain nombre de parents dans ma région qui étaient dans la même épreuve, et on a commencé à réfléchir sur les actions que nous pouvions mener. Alors, ces actions, on les voulait quasi intégralement autour de l'enfant. On ne voulait jamais défendre un père, on ne voulait jamais défendre une mère. On veut défendre le droit de l'enfant à vivre aussi bien avec papa qu'avec maman. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a près de 15 ans maintenant, il y a 14 ans, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, et c'est un des droits fondamentaux de l'enfant que de pouvoir vivre aussi bien avec son papa qu'avec sa maman. Le problème gravissime auquel les parents sont confrontés lorsqu'ils vont devant les juges, c'est que les juges ne sont absolument pas armés pour résoudre leurs problèmes. Ils ont des textes de loi, et en techniciens de la loi, ils essaient de trouver une réponse technique, juridique, aux problèmes posés. Or, on comprend bien que dans un problème familial, le relationnel entre chacune des personnes concernées, le père, la mère, l'enfant, ne peut pas se traduire en termes de loi. C'est pas possible. Il faut adapter à chaque cas d'espèce une réponse. Alors, notre action a commencé par essayer de sensibiliser le monde politique d'abord, puisque c'est lui qui légifère, le monde judiciaire ensuite, mais alors là, les portes étaient, et sont toujours, pour la plupart, terriblement fermées. Et pourtant, on voulait faire progresser la cause des enfants. Moi, je peux vous dire que dans l'association que je préside, je vois énormément de souffrances d'enfants, et que ces souffrances d'enfants font que je ne peux absolument pas baisser les bras. On ne peut pas laisser les enfants, encore aujourd'hui en 2005, dans la situation dans laquelle beaucoup de parents et le système judiciaire les laissent. Et quand je dis le système judiciaire, c'est tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les enquêteurs, enquêtrices sociales, ce sont les pédopsychiatres, ce sont tous les gens qui se penchent sur ce problème et qui prétendent apporter la bonne réponse. Alors, il y a quand même un petit mouvement qui est en train de se dessiner, et je voudrais lire un extrait de la Gazette du Palais qui date de fin 2003. c'est le président du tribunal de grande instance d'un tribunal du sud de la France qui, conscient tout à fait de ces problèmes-là, en tant que magistrat, écrit ceci, constate statistique sur le divorce. Il est sévère, il démontre que les avocats et les juges aux affaires familiales ne sont pas bons. 1 million d'enfants en France ne voient plus ou presque plus l'autre parent dont ils ne partagent pas le quotidien. La plupart du temps, il s'agit du père. Alors que 2 millions d'enfants sont concernés par les situations familiales de séparation. Dans bien des cas, les communautés d'après-divorce ne sont pas réglées. 3 prononcés de divorce sur 5 reviennent devant les juges aux affaires familiales pour une demande de modification. Ces procédures sont généralement sollicitées dans les 2 à 3 années qui suivent le divorce. Avec un tel bilan, quelle est l'entreprise qui ne serait pas placée en état de liquidation judiciaire ? C'est un magistrat qui écrit ça. Ce constat chiffré devrait à lui seul suffire à faire réfléchir tous les juges aux affaires familiales et les avocats et les amener à changer de méthode, à changer d'état d'esprit et à rechercher d'autres outils. Et nous nous situons exactement dans ce système, dans cette mouvance. C'est ça que l'on veut.
Monsieur Deschamps, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples qui montrent les dysfonctionnements de la justice face à ces questions?
Bon, on sait qu'en ce moment, il y a une très grosse mode dramatique qui est la mode des accusations de pédophilie. Comme la justice, les lois ont évolué, chacun a en mémoire la loi du 4 mars 2002 qui prône en principe la garde alternée. Donc, les mamans, qui étaient habituellement les dépositaires de l'enfant dans l'ancien système, c'était une culture de société, elles ont beaucoup plus de mal aujourd'hui à maintenir l'enfant en permanence chez elles. Qu'est-ce qu'elles font lorsqu'elles ont un désir absolu de garder l'enfant? Eh bien, elles vont jusqu'au bout. Elles n'hésitent pas à accuser les pères d'actes pédophiles sur leurs propres enfants. Alors, on a plusieurs cas dans notre association. Le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est un papa qui a été accusé de tels actes il y a maintenant 4 ans et demi. Ce papa s'est trouvé dépossédé de la possibilité de voir ses enfants au quotidien, bien sûr, mais même le droit classique de visite tel qu'il était toujours connu de 1, 3, 5, c'est-à-dire premier, troisième, cinquième week-end, moitié des vacances scolaires. Et ce papa a eu un droit très fortement limité de voir ses enfants une fois tous les 15 jours, jamais pendant les vacances, dans un centre, dans un lieu de rencontre, avec des gens qui étaient là pour surveiller comment se passaient les rencontres. Et ça se passait donc du samedi 14h au samedi 17h, donc 3 heures de visite avec les enfants. Les enfants qui ne voient leur père que si peu. Et ce sont des mesures qui sont toujours provisoires et qui doivent être reprises si on veut les maintenir. Alors la procédure pour démontrer que le papa n'était absolument pas coupable des actes dont on l'accusait a duré déjà en soi 2 années. Donc ces 2 premières années ont été terribles. Les enfants étaient complètement coupés de leur père. Il s'agit de 2 garçons en l'occurrence. Et le père qui a très peu de moyens financiers, c'est un autre aspect du combat malheureusement de la famille, où il faut beaucoup d'argent pour se payer un avocat, eh bien le papa, lui, il avait complètement distendu le lien avec ses enfants. Il se battait comme un fou pour y arriver, mais c'était des refus perpétuels tant que son problème n'était pas arrivé à terme. Lorsqu'il a pu enfin démontrer que la justice a reconnu qu'il n'était pas coupable, on lui en a donné acte, mais pour autant on n'a rien changé dans la situation. Pendant encore 2 années, il n'a pas pu revoir ses enfants. On a continué à maintenir ce système dément, dans son cas à lui, de ne permettre de voir ses enfants que 3 heures tous les 15 jours et encore qu'une partie de l'année dans ce centre de rencontre. Et alors récemment, il a enfin pu aboutir à une ordonnance. Qu'a dit le juge? Et je viens d'écrire au juge il y a quelques jours. Qu'a dit le juge? Eh bien, il déboute et le père et la mère de leur demande de divorce. Parce que les dossiers sont tellement mal montés, les avocats sont-ils en faute, je n'en sais rien, que le juge, et c'est son droit, c'est rarissime en justice, mais il les a déboutés. Conséquence de cette décision, eh bien le père qui ne voit pas ses enfants depuis 4 ans et demi, il va continuer à ne pas les voir. Pourquoi? Parce que la mère s'y est toujours opposée, et que maintenant que les effets de cette justice qui est passée pendant 4 ans et demi sont arrêtés, les droits sont rétablis pour l'un et pour l'autre, mais les enfants habitent chez la maman. Et si le père se présente, elle va faire ce qu'elle a déjà fait dans le passé, elle va fermer les portes, boucler et empêcher les enfants de partir. Et il faudra donc une nouvelle action judiciaire pour réouvrir à nouveau les possibilités au père de voir ses enfants. Voilà une conséquence dramatique du comportement de la justice qui n'a pas compris en 4 ans et demi que c'est la maman qui empêchait ses propres enfants de voir leur papa. Donc c'est vraiment quelque chose de dramatique. On a un autre cas d'accusation de ce même genre, et j'avais même écrit par anticipation au garde des Sceaux, à M. Verben, en lui parlant du cas de cette famille, où le père donc ne voyait plus ses deux petites filles depuis 2 ans suite à des accusations de même nature, et j'avais écrit, et non seulement les deux petites filles ne voient plus leur père, mais elles ne voient plus non plus leurs grands-parents paternels. Tout le monde est mis au ban de la société. Et j'avais écrit à M. Verbeil en disant, mais probablement que dans ce cas, on va d'ailleurs trouver des poux sur la tête au grand-père et à la grand-mère, et on va dire aussi qu'ils sont pédophiles. Eh bien, ça n'a pas manqué. 3 mois plus tard, le grand-père qui n'avait plus vu ses petites filles depuis 1 an et demi a assigné sa belle-fille pour avoir une autorisation de revoir ses deux petites filles. Eh bien, on a sorti ça du chapeau. Ahurissant. Le grand-père arrive à démontrer que le fameux week-end où on l'accuse d'avoir commis ces actes, eh bien, il n'était pas chez lui, il n'avait pas pu avoir ses petites filles puisqu'il était en vacances avec des amis et qu'il a même pu produire la note d'hôtel. Ça n'y a strictement rien changé. L'affaire est en cours. Le juge d'instruction qui est chargé de l'accusation concernant le père et également le grand-père n'a pas mis le grand-père en examen, mais lui interdit de continuer à voir, enfin, lui interdit de voir ses petits-enfants jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il ait statué. Et il a désigné ce juge d'instruction, il a désigné un expert qui, pour se rendre disponible, tenez-vous bien, 5 mois. Les 5 mois sont écoulés pour pouvoir recevoir donc le père, la mère, les enfants, le grand-père, la grand-mère. Les 5 mois sont écoulés et il n'y a toujours pas de date fixée à la date d'aujourd'hui, donc ça va faire 6 mois, et il n'y a toujours pas de date pour recevoir la famille. Donc voilà comment la justice traite les problèmes dans notre pays. Alors ce sont des exemples.
C'est totalement effrayant, tout ce que vous racontez, c'est glaçant. C'est glaçant, on a l'impression qu'on est dans un système... Oui, c'est ça, kafkaïen.
Il n'y a pas de sortie.
Il n'y a pas de mots pour définir.
Il n'y a pas de sortie.
Mais une association comme la vôtre, dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Ben nous, maintenant, on a compris qu'il fallait dialoguer directement avec les intéressés. Les intéressés, c'est qui? Ce sont tous les acteurs de la justice, ce sont tous ceux qui tournent autour. Donc, chaque fois qu'on voit un cas de dysfonctionnement, eh bien, on le signale au juge.
Mais vous ne croyez pas quand même qu'au fond, derrière, bon, là, on parle de la question de la justice face aux enfants de divorcés,
oui, mais
aux enfants
de... Je vais venir à l'autre problème.
Mais il y a un problème qui est beaucoup plus important en général. Enfin, là, je vous entraîne peut-être sur un terrain où vous ne voulez pas aller. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais c'est le problème de la responsabilité des magistrats. En France, on vit dans un système où l'irresponsabilité est totale chez les magistrats.
Entièrement.
C'est-à-dire qu'un magistrat peut faire n'importe quoi, mais
entièrement,
n'importe quoi. Il n'aura jamais à en rendre compte en aucune manière.
Non, non, tout à fait. C'est un problème assez dramatique. Alors, moi, on pourrait parler de ce sujet de la responsabilité des magistrats sur bien d'autres thèmes que celui de l'enfance.
Et
de
mais ça, c'est terrifiant parce que
oui,
l'exemple que vous citiez de ce père de famille qui n'a pratiquement pas vu ses enfants pendant 4 ans, c'est évident que les enfants, la mère ne doit pas se faire faute de leur dire pourquoi ils ne voient pas leur père. Et c'est un traumatisme effroyable pour des gamins.
C'est pour ça qu'il faut qu'on parle plus maintenant des parents que du système judiciaire lui-même. Le système judiciaire, il n'est pas apte à résoudre le problème. Et ce magistrat dont je viens de vous lire un extrait, il le reconnaît lui-même. Et en fait, cet article, il est écrit à l'occasion d'une réflexion profonde sur la médiation. Bon, avec la loi du 4 mars 2002, a émergé la notion de médiation qui existe depuis longtemps dans d'autres pays, parce que je vais vous donner quelques chiffres. Aux USA, c'est une obligation. La rencontre de médiation est obligatoire dans un très grand nombre d'États, dont on peut citer la Californie, le Wisconsin, le Minnesota. Au Québec, c'est l'information à la médiation qui est obligatoire avant de saisir le juge.
Qu'est-ce que vous appelez la médiation?
Alors, la médiation, c'est le père et la mère qui sont en conflit grave, qui vont se rencontrer en présence d'un tiers médiateur. Ce médiateur, évidemment, il a une formation de base. Son rôle n'est pas de donner des conseils, son rôle, c'est d'abord d'écouter. Donc le médiateur, il va écouter, il va entendre ce que dit l'un, il va entendre ce que dit l'autre, il va essayer de les faire parler ensemble si possible, et lorsqu'il constate des propos dans le dialogue qui sont excessifs de l'un ou de l'autre, il essaye de se tourner vers la personne qui tient ce propos excessif pour lui en faire prendre conscience d'elle-même. Il faut que la personne qui dit une anomalie par rapport au rôle qu'elle doit tenir vis-à-vis de l'enfant, il faut que cette personne en prenne conscience. Il faut que la confiance revienne entre le père et la mère, quelle qu'ait pu être la dureté du conflit conjugal. Il y a le conflit conjugal, mais par contre, le père et la mère restent des parents dans toutes les situations. Hein, il reste papa, il reste maman, et leur devoir, ils les ont à vie.
On voit bien là que c'est pas le cas. Enfin, une mère qui, ou un père d'ailleurs, peu importe, enfin, un parent qui, pour se venger, en quelque sorte, de son adversaire,
oui, c'est atroce.
Accepte de pourrir la tête de ses propres enfants.
C'est atroce.
Alors, disons, enfin, il est irrécupérable, ce personnage-là.
Alors, il est irrécupérable. Écoutez, nous, notre avis dans l'association, on a beaucoup réfléchi. On pense qu'un enfant, il a toujours besoin d'un papa, il a toujours besoin d'une maman. Alors, il y a des pères et des mères qui se comportent bien, il y en a qui se comportent moins bien, puis il y en a qui se comportent très mal, il y en a qui, effectivement, commettent des actes odieux.
Ça fait penser à la phrase « Tout le monde n'a pas la chance de naître orphelin ».
C'est vrai. Et donc, vous avez raison de souligner cet aspect-là, mais nous, notre rôle au niveau associatif, parce qu'il y a les cas extrêmes, mais il y a tous les cas intermédiaires, les cas de souffrance, je vais appeler ça de souffrance ordinaire, où les gens ont un conflit de séparation dans lequel ils n'arrivent pas à émerger, et dans lequel un s'empare de l'enfant, le juge lui donne raison, il a les enfants à la maison au quotidien, et il empêche l'autre. Moi, par exemple, mon petit garçon a été enlevé par sa maman, si ça ne peut pas un enlèvement, puisque c'est la maman, donc la justice a cautionné et entériné l'enlèvement, et je n'ai eu aucune possibilité pendant 5 ans et demi qu'ont duré les procédures, je n'ai jamais pu parler à mon petit garçon par téléphone.
C'est la mère supposée. La question va peut-être vous paraître incongrue, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi, mêlé à tout ça, une nouveauté relativement récente, c'est la question des mariages à l'intérieur de, enfin à l'extérieur de la sphère naturelle, je veux dire qui épousent des étrangers, les hommes qui épousent des étrangères avec une autre culture, une autre civilisation, une autre religion.
Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque je regardais récemment TV5, pour pas le citer, une émission qui était consacrée aux familles, aux nouvelles formes familiales qu'on rencontre notamment aux États-Unis dans la région que vous connaissez de San Francisco, et on interrogeait des parents gays ou lesbiens.
Oui, j'ai vu cette émission.
Donc vous avez vu, et moi j'étais complètement effaré d'entendre les enfants eux-mêmes parler comme ils parlaient, en disant mais comment ces enfants vont-ils pouvoir se structurer. Mais je dois être très...
Moi ce qui m'a stupéfié, c'est la santé de ces gosses. Il y avait une gamine notamment qui expliquait que ses mères espéraient visiblement qu'elle deviendrait comme elle, oui. Et elle disait ça avec une espèce de décontraction un peu ironique, pratiquement elle était à la limite de la poursuite pour homophobie, quoi. Hein? C'est quand même extraordinaire ça. Mais enfin, vraiment. Alors, pour revenir à ma question, vous dites que votre association elle vise à introduire en France parlons moderne, la culture de la médiation. Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances de réussir ?
Oui, on a des chances, d'abord parce qu'on ne va pas caler, que c'est quand même une idée moderne et que c'est une idée raisonnable. C'est une idée qui retourne...
Je veux dire que le rapprochement des deux mots, oui. C'est déjà assez exceptionnel. Hein. Une idée moderne et raisonnable...
Non, mais il n'y a pas que du mal dans le moderne quand même, fort heureusement, Dieu merci. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... On ne peut pas rester sur la situation ancienne, c'est impossible. Dans mon premier livre, je rappelle une statistique du ministère de la Justice qui montre qu'en dessous de 5 ans, 96% des enfants étaient confiés à la maman. Jusqu'à 9 ans, 10 ans, c'est moins de 10%. Et jusqu'à 18 ans, c'est donc...
Moins de 90%, vous voulez dire ? Je comprends pas. Répétez ce que vous venez de me dire, c'est pas
clair. Attendez. Je reprends les chiffres. En dessous de 4 ans, il y a moins de 4% d'enfants confiés au père.
D'accord.
Bon, jusqu'à 10 ans, il y en a moins de 10% confiés au père. Uh-huh. Et jusqu'à 18 ans, il y a moins de 20% d'enfants confiés au père. Ça veut dire que la plupart des décisions de justice confiaient, lorsqu'il y avait conflit, les enfants à la mère. Quand un père arrivait dans une procédure de divorce, il n'avait quasiment aucune chance d'avoir la garde de son enfant s'il le souhaitait. Et il n'avait même pas aucune chance d'avoir la garde alternée. Il y a encore 3 ans, ça n'existait pas. C'était pas reconnu dans la loi. Donc ce système-là, il est complètement caduque et voué à l'échec pour une raison simple, c'est qu'il aboutit à l'échelle de toute la collectivité au fait que beaucoup de pères étaient conduits à abandonner l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'une mère qui part à 700 km, on a le cas dans notre association, on a des cas comme ça, ben le père il ne peut pas suivre. Comment peut-il s'occuper de ses gosses qui sont à 700 bornes ? C'est impossible. Et c'était tout le temps le père qui était éloigné de l'enfant. L'enfant était toujours éloigné de son père. Donc il n'y avait pas de modèle structurant du père dans la famille. Bon, et ça quand même, les politiques qui sont ceux qui font les lois, ils ont quand même enfin pris conscience de cette dimension du problème. C'est cette fameuse loi. Et puis les textes qu'on applique aujourd'hui sont quand même plus ouverts, et on voit d'ailleurs que dans les décisions de justice actuelles, on commence à voir qu'il y a plus de pères qui obtiennent satisfaction à leurs demandes que dans le passé. Bon, il faut un combat absolument incroyable, il fallait. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que ça balance un peu du côté des pères très doucement, j'insiste. Mais un petit peu au coup de poker, quoi. Hein. C'est un jeu de cartes. On a sa chance ou on ne l'a pas. Ça va dépendre essentiellement du juge. Si on a la chance de tomber sur un juge qui accepte d'examiner consciencieusement le problème et que vraiment on apporte une position de père qui est parfaitement défendable, on a peut-être une toute petite chance.
Est-ce que la féminisation de la justice joue un rôle là-dedans, d'après vous ? Est-ce que vous avez l'impression que...
Malheureusement, oui. Je suis désolé pour les magistrats qui pourraient en tirer ombrage, mais c'est malheureux, c'est vrai. La majorité des juges, des magistrats sont des femmes, et c'est vrai que moi, j'ai fait 7 procédures pour que enfin le droit me soit reconnu d'éduquer mon petit bonhomme au quotidien. Ça a duré près de 6 ans. Je suis tombé toujours sur des femmes, et je n'ai dû mon salut qu'au fait que les juges auxquels j'avais affaire jusque-là, qui avaient toujours dit non, ils ont été mutés, et j'ai eu la chance de tomber sur une juge qui arrivait de Paris, qui était probablement plus proche des idées actuelles du ministère de la Justice, et qui enfin a regardé le dossier convenablement, et s'est bien rendu compte que ce qui se passait était complètement anormal. On avait enlevé l'enfant, on ne voit pas pourquoi.
Mais en fait, l'impression qu'on a, c'est que si les parents voulaient s'arrêter un petit peu de se bagarrer pendant une heure pour régler les problèmes sans faire appel à la justice, c'est votre idée de médiation.
Voilà, c'est eux-mêmes qui devraient prendre la décision, et c'est d'ailleurs en ce sens que la justice elle-même, aujourd'hui, préconise que les dossiers soient traités. C'est-à-dire qu'un juge peut suggérer, voire imposer, la médiation préalable. Donc, si c'est suggéré et que les parents le font, c'est la meilleure des solutions. Nous, on le suggère même en amont de l'action judiciaire. On dit, avant d'aller au casse-pipe juridique, écoutez, essayez de réfléchir entre vous, avec un médiateur si vous pouvez pas le faire tout seul, et puis de trouver la meilleure solution et arriver devant le juge avec en main un protocole d'accord que vous allez demander de valider. C'est ça la solution la plus intelligente. Alors, quand le conflit est ultime, les gens refusent, les gens s'opposent, forcément. Les mères s'y opposaient en particulier, puisque la tradition était de leur confier les enfants. Mmh. Donc, c'était plutôt elles qui s'y opposaient. Et aujourd'hui, c'est souvent le cas. C'est souvent les mamans qui s'opposent à ça. Mais enfin, certains papas aussi, malheureusement. Alors, la médiation, en un tout petit mot, à quoi ça sert, la médiation ? Eh bien, le but principal de la médiation familiale, c'est de rétablir un dialogue, une communication entre les personnes, malgré les blessures et les souffrances réciproques de la séparation. Amener les parents à bien séparer le conjugal du parental, tenter de s'expliquer pour mieux reconstruire les relations de parents, se respecter mutuellement et réfléchir ensemble aux meilleures solutions à prendre dans leur intérêt, mais surtout dans l'intérêt des enfants. Donc c'est ça la médiation. Et bon, des gens qui sont capables de surmonter un petit peu leurs contradictions et les épreuves, ils finissent par y arriver. Et c'est ça qu'il faut viser aujourd'hui.
Alors, on a des messages que je voudrais vous lire parce qu'ils sont fort intéressants. Enseignante dans le primaire, j'avais un élève très perturbé. Un jour, je lui ai donné un mot pour ses parents et il m'a demandé, je dois le donner à celle qui est ma mère ou à celle qui fait mon père ? Par expérience personnelle, je sais qu'on n'écoute pas assez les enfants. Merci d'aborder ce sujet. Ben oui. Une auditrice, j'ai autour de moi des divorcés et on donne toujours la primeur aux femmes et je pense que c'est voulu. Le gouvernement fait tout pour détruire la famille. Quand les enfants sont devenus adultes, attention au retour de bâton.
Ça change.
Vous dites que ça change. Oui. Un auditeur, nous sommes grands-parents. Alors là, il y a plusieurs appels d'auditeurs.
Ah oui.
Parler des grands-parents, parler de la situation des grands-parents.
Ben oui, les grands-parents,
qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Que peuvent faire les grands-parents ? Je demande les auditeurs.
Qu'est-ce que peuvent faire les grands-parents ? Les grands-parents, ils ont des droits. Donc, ils ont parfaitement le droit d'aller devant le juge eux-mêmes. Malheureusement, ça coûte de l'argent. Il faut prendre un avocat. Il faut faire une assignation du gendre ou de la belle-fille qui refuse que les grands-parents voient leurs petits-enfants. Et puis, il faut demander au juge une autorisation de les voir.
Mais alors, la belle-fille ou le gendre peut très bien dire, écoutez-moi, c'est à mon mari ou à ma femme de se débrouiller quand il ou elle a les enfants pour les emmener chez ses parents. C'est pas moi qui...
C'est un petit peu vrai aussi. Alors, ce que je souhaite, ce que j'espère en tout cas, c'est que dans l'avenir, ces situations des grands-parents vont s'améliorer avec la médiation, parce qu'ils seront directement tributaires des conséquences de la médiation, parce que la médiation, où elle va arriver ? Elle va arriver à une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant, et la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, c'est quoi ? C'est qu'il puisse vivre avec papa et qu'il puisse vivre avec maman. Mmh. Et de ce fait, ces problèmes-là disparaîtront.
L'intérêt de l'enfant, c'est que les parents divorcent pas, en somme.
Oui, mais en tout cas, s'ils sont séparés, s'ils sont divorcés, c'est qu'il y a un temps de présence chez l'un et chez l'autre qui soit si possible identique. Bon, ça suppose une proximité géographique, ça suppose la mise en place d'un système qui demande un certain nombre de contraintes au père et à la mère, bien évidemment.
Je connais un couple qui est dans cette situation de séparation, et ils vivent dans la même rue. Ils ont chacun leur appartement à 30 mètres de différence. Et le système, c'est que le garçon passe une semaine chez papa, une semaine chez maman. Mais il n'est pas content du tout.
ça arrive aussi que cette situation de la garde alternée soit un échec.
Énormément.
Oui, ça arrive aussi que ce soit un échec pour l'enfant, soit parce qu'il vit assez mal d'avoir deux maisons différentes, ça peut être un thème, mais c'est rarement celui-là. Soit plutôt parce qu'il est mal dans une situation par rapport à l'autre. Par exemple, quand la famille, une des deux familles est recomposée avec un autre parent qui arrive, et avec qui l'enfant ne s'entend pas forcément. Je connais le cas d'un garçon qui se trouve dans cette situation-là et qui voudrait maintenant, après avoir demandé à retourner chez son papa revit avec une autre femme de qui un petit bébé est né il n'y a pas longtemps, et le garçon se sent un petit peu rejeté par cette maman qui n'est pas la sienne, et il demande maintenant à revenir chez sa maman, ce qui est très complexe, parce qu'une fois qu'un juge a pris une décision dans un sens, c'est rarissime qu'il la reprenne dans l'autre sens. Alors, hormis les moyens d'action que nous mettons en œuvre auprès des parents eux-mêmes, on agit aussi fortement auprès du monde politique, je l'ai dit. Moi, j'ai envoyé mes trois livres, je les ai envoyés systématiquement à tous les membres du gouvernement sous la législature précédente lorsque j'ai édité mon premier livre, et aux actuels ministres de ce gouvernement depuis le changement. J'ai également une action de sensibilisation permanente des principaux ministères qui peuvent être concernés. Je pense évidemment au ministère de la Justice avec qui j'ai des contacts et où je me déplace de temps à autre. On écrit régulièrement aux magistrats et à l'ensemble des magistrats. Je dois vous dire que j'écris 225 lettres de temps en temps à l'ensemble des premiers présidents des cours d'appel de France et à l'ensemble des présidents des tribunaux de grande instance de France pour leur faire passer un message, demander qu'on communique cette information aux juges, aux affaires familiales, qu'ils soient vraiment conscients des conséquences des décisions qu'ils prennent.
Je vous remercie. Je vais vous demander de donner alors l'adresse de votre association. Je rappelle que vous avez publié un livre en trois tomes sur votre expérience, mais c'est pas seulement votre expérience, c'est votre expérience de père, mais aussi votre expérience de président de l'association.
Qui donne un grand nombre de cheminements possibles pour résoudre les problèmes.
Et avec beaucoup de renseignements, donc sur les procédures à suivre, les chemins qui conduisent.
Oui, et l'attitude à adopter pour.
Donnez s'il vous plaît aux auditeurs l'adresse de votre association, un numéro de téléphone où on peut vous joindre.
L'adresse de l'association, c'est donc l'association L'Enfant a des droits, 755 route de Gréasque, je répète, 755 route de Gréasque, Gréasque, 13105 Mimet, Mimet, 13105 Mimet, Mimet, téléphone 04 42 58 80 70. Je répète, 04 42 58 80 70. Fax 04 42 58 80 07. 04 42 58 80 07. Et sur Paris, on a un contact qui est un membre de notre association, qui est le 01 45 20 16 26. Je répète, 01 45 20 16 26.
Monsieur Deschamps, je vous remercie. C'est un sujet très douloureux, très pénible. Je voudrais terminer sur une note que je trouve un peu déplaisante. Un auditeur, à la question que faut-il dire aux grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, il faut leur dire, si vous aviez éduqué vos enfants dans la foi catholique, ils se seraient mariés chrétiennement, n'auraient pas divorcé, et vous voyez toujours vos petits-enfants. Si c'était aussi simple que ça, on serait au paradis, on serait pas sur la terre.
Ce qu'il faut répondre à cet auditeur, c'est que, je l'ai dit au début de l'émission, que toutes les personnes qui divorcent ne sont pas volontaires pour le divorce.
Bien sûr.
On est parfois obligé de subir, malheureusement.
Quand vous rentrez chez vous, que l'appartement est vide de meubles et d'enfants, vous n'avez pas tellement le choix.
Non.
C'est pas vous qui avez mis votre
pas
femme
vraiment.
À la porte à coups de pied dans les fesses.
Pas vraiment.
Merci beaucoup, Monsieur Deschamps, de vous
Merci
être dérangé de votre province pour venir nous présenter votre association.
Merci à vous.
À bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Michel de Pensin, qui est un observateur très attentif de la vie politique et judiciaire et administrative en France? C'est renversant, non?
Je ne pense pas à grand-chose. Ce sont des situations dramatiques, évidemment. Bon, c'est certain que la justice fonctionne mal en France.
De toute façon,
elle fonctionne mal en France. C'est une catastrophe. Ça fait partie de la catastrophe nationale.
Oui. Que vous décrivez avec un optimisme...
Voilà.
Enfin, c'est pas un optimisme, avec une de pessimisme gay, voilà, c'est ce qui fait de vous un homme de droite,
il paraît d'après les praticiens que les juges prennent énormément de vacances. De sorte que dans les lenteurs de la justice, il paraît qu'il y a beaucoup de vacances.
La façon dont ils font leur boulot, c'est aussi bien qu'ils pensent.
C'est peut-être aussi bien, voilà.
Alors, je vous ai déjà invité pour parler de votre livre qui s'appelle, je ne retrouvais pas le titre tout à l'heure, Parlotte et Fête. Alors, on peut le prendre de deux façons. On peut le prendre en riant, qui est la meilleure solution.
Voilà, c'est la façon.
Parce qu'il y a des choses qui sont ahurissantes, renversantes, comiques, bon. Ou alors, on peut le prendre comme une arme pour alimenter sa colère, sa rage, sa haine parfois.
Voilà.
Parce que vraiment, quand on voit la situation de notre pauvre pays et qu'on voit le comportement de ces élites, on est au bord de l'écœurement. Enfin.
Absolument. Alors effectivement, les gens ont la gentillesse de dire que c'est un livre drôle, mais en même temps c'est un livre théorique parce que, comme vous l'avez remarqué, je mets en lumière certains principes sur lesquels le système repose et qui alimentent le système. Comme par exemple le principe de l'enrichissement personnel, puisque je dis tout le système repose sur l'appétit d'enrichissement personnel des hommes de l'État, des chefs syndicalistes, de certains élus. Et pour qu'ils s'enrichissent sans que ça se voit trop, il faut qu'il y ait des milliards et des milliards dans le système, d'où les prélèvements obligatoires qui sont gigantesques, qui leur permettent au sommet de naviguer dans l'opulence.
Ce qui est très original dans la façon dont vous abordez ces questions, c'est que vous renversez une proposition qui est constamment reconnue, à peu près, enfin, qui est constamment acceptée par tout le monde, c'est-à-dire que, en fait, les hommes politiques sont des gens, ou les hommes de l'État, pour simplifier, les hommes de l'État sont des gens qui se sacrifient pour le bénéfice des citoyens, et que, bon, bah, de temps en temps, comme je le disais tout à l'heure à Roger Olyndre, la phrase de la Bible, tu ne muselleras pas le bœuf qui tire la meule, c'est-à-dire, bon, ils font de la farine avec le grain, puis de temps en temps, ils bouffent un peu de grain, quand même, c'est la moindre des choses. Or, vous vous dites pas du tout, du tout, c'est pas du tout les gens qui se sacrifient et qui font parfois des petites incartades, parce qu'après tout, c'est, évidemment, si on fait une réception dans son bureau de conseiller général, et qu'au lieu d'acheter du jus d'orange, on achète du Laurent Perrier, bah après tout, ça fait de mal à personne, mais... Et vous vous dites, en réalité, pas du tout. Il s'agit de gens qui, dès le départ, ont décidé qu'ils allaient se bourrer les poches, et ils ont choisi la carrière politique parce que c'est le seul moyen de se comporter en gangster sans se retrouver obligatoirement en prison.
Voilà, c'est de l'enrichissement légal, c'est bien ce que je précise.
Mais étant donné que c'est eux qui font la loi.
Et voilà.
Hein, c'est-à-dire, si Al Capone avait fait la loi, les bordels seraient permis, les boîtes de jeux clandestines auraient été autorisées, etc. Voilà. Donc,
et c'est comme le cordonnier qui est légitimement cherche à s'enrichir modestement par son métier de cordonnier, eh bien les fabricants de la loi cherchent à s'enrichir dans la fabrication de la loi.
Oui, en piquant le fric du cordonnier.
Voilà, en piquant le fric du cordonnier. Et alors, plutôt que de braquer la banque, ils font la loi pour pouvoir braquer la banque. Et alors, nous venons de voir un exemple depuis deux jours que tout Paris parle. C'est l'appartement de 600 mètres carrés que s'est loué le ministre des Finances.
Alors, je viens d'avoir un message. On me dit qu'il a renoncé à son appartement. Donc, ça, vous savez à quoi ça fait penser? Je pense au type qui renonce à piquer dans la poche du voisin parce qu'il s'est fait prendre.
Voilà. C'est même encore plus la menthe.
Alors, je dis pas qu'il a piqué dans la poche du voisin, mais moi, je voudrais qu'on m'explique cette histoire Guémard. Il y a deux choses qui m'intriguent dans cette histoire Guémard. C'est le fait qu'ayant un appartement de fonction à Bercy, il ait préféré rester dans un appartement s'installer dans un appartement du quartier des Champs-Élysées. Ça, à la limite, je peux le comprendre. 600 mètres carrés aux Champs-Élysées, c'est plus agréable que 400 mètres carrés à Bercy. Bon. Mais ce que je comprends mal, c'est pourquoi il n'a pas à ce moment-là mis à la disposition des familles, de certaines familles françaises qui seraient très contentes de l'avoir, leur appartement de Bercy, parce qu'il ne sert à rien cet appartement, c'est des locaux vides. Et puis d'autre part, pourquoi. En somme, si le canard enchaîné n'avait pas levé le lièvre, il aurait continué.
Ça passait. Ça passait.
Donc, il faut pas. C'est pas de la repentance qu'il a. Il s'est pas aperçu tout d'un coup qu'il faisait un truc pas bien.
C'est le ridicule. Et on peut même se dire, peut-être, on ne saura jamais, que c'est un piège qu'on lui a tendu en lui disant, mais c'est tout à fait normal. Le ministre doit avoir un appartement, gna gna gna. De même que Messier, on lui a dit, c'est tout à fait normal d'avoir un appartement de 1000 mètres carrés sur la State Avenue, etc. Ouais. Il est peut-être tombé dans un piège, ce qui est grave pour un homme de ce...
Mais quand on sait qu'il succède à Sarkozy, c'est pas tellement étonnant, parce que moi j'ai l'impression que lui, il a dû poser à droite à gauche quelques 1000 antipersonnels qui vont péter au nez de son successeur.
Et ce qui est tout à fait normal, c'est que les ministres aient le droit d'être logés gratuitement. Ils ont déjà un salaire absolument gigantesque sans impôts. Il n'y a aucune raison de les loger en plus.
On voit mal,
alors qu'ils aient dans leur ministère un petit studio pour lequel ils sont obligés de travailler jusqu'à 2h du matin avec une salle de bain, d'accord. Mais je ne vois pas du tout, parce que dès lors que les ministres d'un appartement comme ça, en dessous, il y a une foule de gens qui ont des appartements, et puis des palais. Et alors je dis dans mes livres et dans ce livre Parlent et Fêtes, je dis, il y a probablement 300 palais à vendre en France, et il y en a peut-être 500, palais petits ou grands. Je connais un président de conseil général qui a le plus bel hôtel particulier de la ville pour donner ses cocktails. Il y a la Croix-Rouge qui a la plus belle villa de rêve dans la ville de Marseille pour recevoir ses hôtes de marque. Une villa de rêve à Marseille, c'est 30 ou 40 millions de francs. Et si l'on vendait ces palais avec les intérêts de l'argent du capital et avec l'économie des frais de fonctionnement, ça, probablement on pourrait supprimer un très grand impôt, lequel tue l'économie française. Mais donc l'exemple des palais, c'est un exemple. J'ai donné également l'exemple des vœux, et les gens sont tout à fait stupéfaits.
Ça, c'est ahurissant. Ah, les chiffres que vous donnez, c'est renversant.
Non, mais c'est ahurissant. Parce que dans les vœux, vous avez non seulement les fêtes avec chacun 500 000 personnes, vous avez le personnel pour les fêtes, vous avez le temps qu'ils y passent. Alors, je suis très indulgent, mais j'imagine que de temps en temps, ils font un travail utile, donc on peut débiter sur les vœux le temps qu'ils y passent. Vous avez les cartes de vœux, et vous vous souvenez de ce ministre qui avait envoyé dans le monde entier des cartes de vœux obscènes.
Bonaparte, sodomise en jeune dame.
Voilà. Et vous avez les vœux la fois d'affiche, et pendant, par voie d'affiche.
Qui l'a payé,
Il a peut-être payé. Et les vœux par voie d'affiche, c'est-à-dire que pendant un mois, on reçoit les vœux par voie d'affiche en pleine figure du maire de Paris chaque fois que je sors de chez moi, dont je n'ai rien à faire. Et lorsque vous faites.
Bienvenue au club.
Quand vous faites le total général, vous arrivez à 500 millions ou 1 milliard de francs, là je parle en francs, c'est-à-dire énormément de chômeurs. Non, mais,
milliard de francs, c'est-à-dire c'est
énorme.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque. Et alors, au cours de ce mois de janvier, j'ai déjeuné avec un conseiller de l'ambassade d'Allemagne qui m'a dit, moi je suis débordé, mais mon ambassadeur encore plus avec tous les vœux, mais nous en Allemagne, il n'y a aucune de ces cérémonies, il n'y a juste même pas le président, je ne sais même pas si le président prend le micro.
Vous savez que c'est amusant, parce que je lisais il y a deux jours, à propos des vœux, un très vieux numéro du Crapouillot, dans lequel il était raconté que le général Gamelin, au début de l'offensive, la France est en guerre, hein, donc c'est janvier 40, ouais. Donc, il envoie à ses amis la carte de vœux suivante. Madame la générale Gamelin, étant trop prise par ses occupations, me délègue, me prie de vous adresser en ces lieux et places nos meilleurs vœux pour l'année 1940. C'est-à-dire le généraliste, il était généralissime, c'est le grand patron de l'armée, des armées françaises en pleine guerre, sa femme est trop occupée pour envoyer ses vœux, c'est lui qui le fait. Après, on s'étonne d'avoir pris une raclée en mai 40, c'est quand même pas très surprenant.
Il devait être
en train de rédiger des cartes de
Pâques.
Cet
autographe ont une belle pièce de collection.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et alors, comme j'ai dit qu'il ne réforme pas, parce qu'il ne réforme pas, il ne bouge rien dans aucun problème, ni la santé, ni l'éducation, etc., ils font des parlottes et des fêtes, et j'ai fait la liste des noms qu'ils donnent à ces parlottes et ces fêtes. Hein. Alors, je vais la citer pour l'édification des auditeurs. Vous avez les assises, vous avez les grandes conférences, vous avez les sommets, vous avez les états généraux, vous avez les grands congrès, vous avez les grands messes. Ils appellent ça une grand-messe. Vous avez les forums, vous avez les journées, vous avez les semaines, vous avez les rapports, vous avez les colloques, vous avez les missions, les comités de liaison. Et tout le temps, vous remarquez, par exemple, en 1999, la dame qui s'occupait de l'éducation avait fait les états généraux de l'éducation. On n'a rien fait. Et puis le gouvernement actuel a lancé une énorme consultation. Vous savez, l'année dernière, tous les lycées, partout, tout le monde était occupé.
Et d'ailleurs, cet après-midi, comment s'appelle-t-il le ministre Fillon a lu un texte portant réforme du projet de réforme du baccalauréat, qui était un texte qui reprenait qui reprenait à peu près mot à mot la réforme qui fait descendre aujourd'hui les lycéens dans la rue et qui provoque la colère des socialistes, l'indignation même des socialistes. Et on s'est aperçu quand il lisait ce texte que c'est exactement la proposition qu'avait faite Jospin en 1982, en promettant qu'elle serait appliquée en 1985. Bon, et donc, 20 ans plus tard, on recommence et on propose d'abord une loi socialiste à laquelle ceux qui sont qui la soutenaient hier s'opposent aujourd'hui. Et tout ça, naturellement, c'est le fruit du travail d'innombrables commissions, comme vous le dites, de machin, de trucs. Ça fait tout à fait penser à cette histoire des tombolas organisées au profit des organisateurs de tombolas.
Oui, tout à fait. Et alors, ces gens ne réforment pas, et je ferai remarquer que dès leur arrivée au pouvoir, c'est-à-dire il y a presque 3 ans maintenant, ils ont dit qu'ils ne bougeraient pas, puisque tout de suite, le bonhomme Raffarin a dit qu'il ne gouvernerait pas sans l'accord des syndicats. C'est-à-dire qu'après une victoire très ambiguë, comme on sait, mais enfin, elle existait, ils ont fait comme un général qui déposerait sa casquette, son sabre, etc., devant l'ennemi en disant que c'est vous qui avez le pouvoir.
J'ai gagné, mais c'est vous qui avez le pouvoir.
C'est une des raisons pour lesquelles ils ne réforment pas. Une autre raison, c'est que ce sont des hommes de gauche, mais enfin, ça, nos auditeurs le savent.
Mais Roger Hollande, tout à l'heure, rappelait qu'en Algérie, on avait gagné sur le terrain, et que pour se faire pardonner d'avoir foutu une branlée au FLN, on leur a quand même donné l'indépendance.
C'est un peu ça.
Votre livre est très, je le répète, très amusant à lire et très accablant en même temps.
Oui.
Mais c'est surtout ce qui est passionnant, c'est qu'il est littéralement truffé d'anecdotes, d'exemples, de détails, d'accusations, d'informations très précises. Et on a vraiment l'impression, moi je suis sorti de la lecture de ce livre avec l'impression que j'avais déjà un petit peu, qu'on est dirigé par des mafieux, tout simplement. Pas autre chose que des voyous mafieux.
Absolument, c'est une mafia légale. C'est une mafia légale.
Oui, comme sont toutes les mafias quand elles votent les lois.
Voilà.
Encore une fois, c'est...
Alors, par exemple, il y a un aspect tout à fait important, c'est le droit de reclassement, ça doit être utilisé dans un de mes principes, c'est-à-dire que quand quelqu'un a le malheur de ne plus être ministre, il fait un malheur épouvantable, au lieu d'aller gagner sa vie dans le privé, il a un droit à un reclassement, et là, je cite un certain nombre de postes qu'on a créés pour reclasser des ministres en peine, là, des postes inutiles. Alors souvent, il y a des postes tout à fait inutiles, puisque même il y en a d'entre eux, je n'ai pas le nom dans la tête, mais c'est il y a 6 mois, qui a été nommé ambassadeur extraordinaire pour prévenir les conflits.
Oui, je me souviens de ça.
Alors, on voit ce qu'étant les toutous et les tsumis, là j'ai écorché le nom, en disant les gars, ne vous battez pas.
Ne vous battez pas.
Mais en fait, il exerce ses fonctions plutôt à New York ou ailleurs, ça, où c'est plus sympathique.
Mais regardez l'histoire de Vaquet, c'est quand même une très très belle histoire. De Vaquet présente un projet de réforme de l'université. Et il est chassé à coups de pompe dans le cul par les étudiants, pour des raisons d'ailleurs que les étudiants seraient absolument incapables d'expliquer. Il fait repentance, il abandonne immédiatement son projet, et il abandonne, étant donné qu'il y a eu un mort, Malik Oussekine, qui s'est fait tabasser, dit-on, par des policiers, en fait, je crois que tout simplement, il était très gravement malade, il avait une maladie des reins, et il participait à une manifestation. Et là, quand on a une maladie des reins qui nécessite à peu près tous les jours ou tous les 2 jours un lavage du sang, je trouve plus le mot, je sais plus comment ça s'appelle.
Oui, un changement, une transition.
Oui, bon, on va pas dans les manifestations, ça me paraît pas très raisonnable. En tout cas, ce pauvre jeune homme est mort. Donc, le Vaquet a payé cette mort accidentelle, en étant obligé de donner sa démission. Et immédiatement, donc, la démission d'un ministre des universités, ça veut dire qu'il est pas capable d'être ministre des universités, si je comprends encore le français. Immédiatement, il a été embauché à l'Élysée comme conseiller spécial du président de la République pour les questions universitaires.
Voilà. Et alors vous avez le cas de la suppléante de Sarkozy, que Sarkozy était ministre, donc il n'était plus député, il y avait une suppléante. Et alors quand Sarkozy n'a été plus ministre, ça s'est fait il y a 3 mois, la suppléante qui n'était pas...
Oui, elle ne voulait pas partir.
Voilà, elle n'était pas très au courant de la courtoisie républicaine, elle ne voulait pas partir. Et bien finalement elle est partie contre un poste de personnalité qualifiée au Conseil économique et social. Mmh. Alors les personnalités qualifiées, parce que c'est une des gloires de la République d'une personnalité qualifiée, je les appelle les PQ. Il paraît que c'est une gloire d'être un PQ. Donc voilà, donc...
Vous n'allez pas être dans leur petit papier.
Voilà, c'est, et alors ça, le droit au reclassement, c'est un droit gigantesque.
Mais vous ne croyez pas que les grands responsables, finalement, les grands responsables de tout ça, et j'en ai un exemple là dans les messages qu'on reçoit, c'est les Français eux-mêmes. Parce que là, depuis le début de l'émission, on a fait des allusions à, entre guillemets, l'affaire Guémard. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, après tout, on en a plutôt rigolé. Bon, alors, on m'explique deux choses. J'ai les messages me disent tous. Premièrement, oui, mais Guémard a 8 enfants, donc il a le droit d'avoir 600 mètres carrés à côté des Champs-Élysées. Bon, moi, je veux bien, si on donne 600 mètres carrés à toutes les familles de 8 enfants dans les, sur les Champs-Élysées, d'abord, je vous signale une chose, c'est que probablement la couleur du quartier va changer. Hein? Ça va relâcher un peu la pression démographique sur Versailles. D'un autre côté, c'est ça vrai, peut avoir vrai. Du bon, ça c'est fera bravo. Baisser. Bon. Mais ça, c'est une chose qu'on, bon, qu'on me dit. Mais il y a autre chose, c'est qu'on me dit de quel droit vous en prenez-vous au gendre du professeur Lejeune. Alors attendez, j'ai la plus grande admiration pour le professeur Lejeune, mais je ne vois pas pourquoi cette admiration s'étendrait à son gendre. Son gendre, c'est un ministre d'un gouvernement avorteur. Professeur Lejeune a été un militant, le militant par excellence de la lutte contre l'avortement et de la lutte pour la vie. Et son gendre, quelles que soient ses qualités par ailleurs, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il est beau garçon, ça, j'ai vu à la télévision, il présente très bien.
Oui, très bien.
Mais en dehors de ça, je n'ai pas entendu dire qu'il ait refusé de collaborer à un gouvernement d'assassins d'enfants.
Ça n'a aucun, bon. Absolument aucun
Alors,
rapport.
Pourquoi il aurait droit à un traitement spécial non. de faveur et à un appartement de 600 mètres carrés.
Et puis là, on touche un des principes seulement que je mets en lumière, c'est que comme il y a tellement d'argent, et c'est pour ça qu'ils prélèvent tout le temps, qu'ils augmentent les impôts, etc., une petite rapine ne se voit pas beaucoup parce qu'il était en droit de dire qu'est-ce que c'est un loyer de 200 000 francs par an, donc c'est rien par rapport au budget de 40
milliards. 200 000 francs par an, non, c'est...
Attendez, oui,
c'était 100 000 francs par mois.
C'était un million, un million deux par mois. C'était un million deux. Oui, c'était un million. Voilà, c'était un million deux. Oui, je me trompais. Oui. Donc, il était en droit de dire, c'est rien du tout. Alors, de même, lorsque un président de conseil général donne une fête de 500 personnes, son grand argument, c'est de dire, mais c'est minimum par rapport au budget global. Mais tous ces minimums, ça fait ce que j'appelle la rivière argentée, c'est-à-dire quelque chose d'absolument gigantesque sur lequel chacun de prélever en avançant sa main. C'est ça le drame.
J'ai vu aussi que vous étiez... Vous collaborez au cri du contribuable.
Non,
il en avait été question.
Non, je ne collabore pas au cri du contribuable. J'ai beaucoup d'admiration au cri du contribuable. J'en ai parlé dans mes journaux, mais en effet, le cri du contribuable, c'est très 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 intéressant. Ils font un travail très épais. Ils sont diffusés dans les kiosques.
Et moi, je suis très content. Vous réserviez votre contribution au Libre Journal de temps en temps.
Oui,
ça me fait très plaisir.
C'est grand plaisir. Et moi, ça m'honore tout à fait. Mais le cri du contribuable, je ne crois pas. Peut-être, je fais publier un article, peut-être, mais en tout cas, c'est un journal excellent. Il faut que le contribuable crie. Mais la difficulté, c'est que les gens qui pourraient entendre le cri se bouchent les oreilles parce qu'ils ont tellement d'avantages qu'il faut que le système continue pour nourrir leur richesse personnelle. Et je viens encore d'avoir une information que je n'avais pas du tout, c'est qu'il paraît que quand on n'est plus député européen, on a droit à un an de salaire pour essayer de se reclasser.
Oui.
Vous le saviez peut-être, moi
non,
je savais,
mais on en apprend tous les jours. Par contre, c'est épuisant d'être député européen, c'est très très fatigant. Moi, on m'avait proposé de l'aide, j'ai refusé. Mais pourtant, j'avais méchant, j'étais 72e sur le Front National.
Donc, ça aurait été bien si 71 avait été.
Ah ben là, j'aurais été content, non mais... Mais voilà, ça n'a pas marché, tant pis. Il n'y avait pas eu 72 élus. J'ai failli. Mais il y a du bon quand même, il y a du gras. Hein.
Oui, ah non, mais c'est absolument fabuleux. Oui. C'est absolument fabuleux. Mais avec ça, je suis optimiste parce que je crois qu'un jour, le bout sera atteint. Ce sera peut-être la hausse des taux d'intérêt parce qu'actuellement, ils se glorifient de trouver tous les jours des tonnes d'argent sur le marché international pour nourrir leur richesse. Mais si jamais les taux d'intérêt montent, c'est fini. C'est la catastrophe nationale. On ne trouve plus de prêteurs sur le marché international. Ce sera peut-être ça, ce sera peut-être une affaire judiciaire. Il y aura certainement des événements. Et à ce moment-là, je dis toujours, il faut qu'il y ait 50 justes qui soient prêts à prendre le pouvoir et à l'exercer dans l'intérêt du peuple français.
On a essayé une fois, ça n'a pas très bien marché, les 50 justes. On n'en a même pas trouvé un. Alors. Rappelez-vous.
Oui, là, je me rappelle. Je me rappelle de la négociation.
Oui, c'était typiquement une négociation de pile-poule, ça.
Oui, oui, c'est ça.
Je rappelle. Oui, alors justement, j'allais vous demander d'abord de dire où on peut se procurer votre livre. Le premier endroit où on peut se le procurer.
Dans toutes les librairies, on peut le demander.
Mais le premier endroit où on peut se le procurer, c'est à la librairie Guettier de notre amie Marie-Thérèse de Béjarry, qui est juste à côté de Radio Contusie, 66 avenue Théophile Gauthier.
Dans le 16e.
Dans le 16e. C'est samedi 19 février, de 15 à 18h30. Donc vous pourrez trouver d'une part, par Lotte et Fête, Divertissement pour accompagner le désastre français, qui est paru chez François-Xavier Guibert. Et puis, le livre dont parlait tout à l'heure un de mes invités, Thatcher à l'Elysée, le jour où elle devint présidente de la République française, chez Odilon Mézières.
Et je serai là pour dédicacer de 15h à 18h30.
Voilà. Et on pourra vous rencontrer et voir que vous êtes un homme absolument français, c'est-à-dire qui, sous les apparences de quelqu'un de léger, d'amusant, et quelqu'un d'extrêmement sérieux.
Êtes,
dans ses travaux.
Vous
c'est êtes, pour ça que je suis content de les publier. Merci Michel, à très bientôt. Vous travaillez sur un autre projet, là ?
Oui,
d'autres
projets.
Vous travaillez sur un projet moins ambitieux.
J'ai beaucoup, si le bon Dieu n'interrompt pas la partie, j'ai beaucoup de projets extrêmement intéressants encore. Donc merci, je dis aux auditeurs, j'espère au 19 janvier, samedi.
Eh bien, pour vous récompenser d'avoir attendu si longtemps, on va donner la possibilité à nos auditeurs d'écouter un tout petit peu de musique. Et après, le camarade Goffman, qui est entré avec une discrétion de souris, va nous expliquer pourquoi nous avons passé cette musique. Dівчини де сердика вечірку, ой, дівчини, відчуди, ой, дівчини, відчуди, своє моє сердико весели. Ой, не буде відчиня, ой, не буде відчиня, бо ти будеш сердика жартувати, бо ти будеш сердика жартувати. Жарту поле до зарі, жарту поле до зарі, поки стало витисненько на дворі, поки стало витисненько на дворі. Ой, козачі, утікай, ой, козачі, утікай, ой, на мене славоньки не пускай, ой, на мене славоньки не пускай. Пан Патрік, Vous avez une minute pour nous faire entendre cette musique magnifique, superbe, que j'aime beaucoup. Ceux qui ne l'aiment pas n'iront pas l'entendre. Et maintenant, vous avez une minute pour nous dire où on peut ne pas aller l'entendre si on ne l'aime pas.
Bonsoir Serge Debecquesse. Eh bien, pour la troisième année consécutive, nous avons le plaisir de vous faire entendre à l'instant la voix de Ludmila Fedorov, accompagnée au Bayan, qui est l'accordéon de concert. C'est un couple de solistes du Philharmonique de Kiev qui offre aux Parisiens, et en premier lieu aux auditeurs de Radio Courtoisie, aux lecteurs du Libre Journal, un concert gratuit dimanche prochain, 20 février à 16h en l'église Sainte-Rosalie qui se trouve 50 boulevard Blanqui dans le 13e, c'est à 10 mètres du métro Corvisart. Voilà.
C'est joli, hein?
C'est très joli. Donc, c'est un morceau de musique ukrainienne. Je pense que l'église Sainte-Rosalie, qui était déjà, et les Fedorov me l'ont avoué, il y a beaucoup de gens qui nient le bien qu'on leur fait, en particulier quand c'est Courtoisie qui leur fait du bien, mais les Fedorov et leurs amis, ceux qui les entourent, les Français qui les entourent, m'ont dit l'année dernière que l'église était déjà pleine à craquer grâce à Courtoisie, pour une grande part. Je pense qu'elle va déborder cette année, ne serait-ce qu'à cause de l'intérêt que l'Ukraine a soulevé récemment.
Alors, vous pouvez venir avec des oranges ou des oranges bleues, on ne sait pas trop, hein, on s'en fiche, à vrai dire.
Écoutez, rien qu'à leur nom et à leur élocution, je pense que ce sont des bons Ukrainiens de notre point de vue, mais bon, il ne faut pas l'infliger, je pense qu'on peut être pour la révolution orange et aimer la musique ukrainienne telle qu'on vient de l'entendre. J'ai lu cette annonce dans le Libre Journal. Vous me permettez d'en dire un mot aux auditeurs. Excusez cette manœuvre un peu sournoise pour vous imposer ce sujet. Ça, je devais cacher. Bon, parce que vous êtes quand même le directeur du Libre Journal et que ça doit vous gêner un petit peu. Mais,
le directeur de la rédaction, parce qu'il y a une directrice en titre.
Moi, nous saluons bien bas, comme de coutume. Le numéro 342 vient de paraître, et c'est mon tour de remercier Michel de Poncin, puisque c'est grâce à lui, pour 50%, que ce bulletin paroissial, comme certains l'appellent, bon, dans le même sac que Rivarol, donc c'est pas vraiment déshonorant, eh bien, ce bulletin paroissial sonore, dans le numéro 342 d'une page business, ouais. Donc on a démagogie contre démographie par Michel de Poncin, et puis notre ami Simplet, juste au-dessus, nous explique que la flambée actuelle de l'immobilier est la flambée et la rançon du CAC 40. Alors, ne me demandez pas de comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, ceux qui s'intéressent à l'immobilier, au CAC 40 et aux relations qu'ils entretiennent.
Moi, je l'ai lu, j'ai regardé, c'est des phrases avec sujet, verbe, complément, donc j'ai publié. Pour le reste, je laisse aller, je parle du papier de Simplet, pas du papier de Michel de Poncin, bien entendu.
Alors, puisqu'on parle de gens cultivés intelligents, avant de citer 3-4 articles et de donner l'adresse, je voudrais adresser un message particulier à nos amis internautes qui sont nombreux, parce que là encore, on nous présente ici et là comme des esprits rétrogrades et médiévaux, mais vous n'êtes pas le dernier. Serge de Beketch a commandé vos billets de train sur Internet. vous manquez pas une occasion, et je sais que nous avons beaucoup d'internautes à l'occasion, et parmi eux, quelques-uns que j'ai pas encore réussi à convaincre de s'abonner, mais qui sympathise néanmoins. Alors, je voudrais leur dire que cet après-midi, j'ai fait francecourtoise.info pour voir où nous en étions, puisque le site avait été interrompu. Et vraiment, je l'ai obtenu en une fraction de seconde, et c'est magnifique. Donc, je voudrais leur dire, allez voir, c'est gratuit. Jugez s'il mérite ou non ce site francecourtoise.info d'être mis dans vos favoris et passez l'adresse autour de vous. Ça n'est pas difficile. Si vous sympathisez sans vouloir vous abonner, allez lire gratuitement quelques articles et faites-en profiter vos correspondants tout autour du monde, donc en leur envoyant cette adresse francecourtoise.info. Le Libre Journal numéro 342 propose... le deuxième épisode donc des tribulations de notre divin marquis en Chine, et c'est vraiment amusant, sans préjudice de son explication. Pourquoi n'a-t-il pas encore la Légion d'honneur? Il est bardé de couvert de décorations, il n'a pas encore la Légion d'honneur. Ce sont exclusivement les lecteurs du Libre Journal qui sauront pourquoi. Le bulletin paroissial a réussi...
On le salue parce qu'il est au fond de son lit avec une...
Avec qui?
Écoutez, je veux pas de détails intimes.
Un rhume fort. Un rhume fort.
Ah oui, un rhume ou quelque chose de genre. Oui. Probablement la grippe qui traîne. Là.
Nous saluons la mémoire dans l'éditorial.
La grippe asiatique, peut-être.
Oui, probablement. Oui, c'est grave alors. Nous saluons la mémoire de Jacques Seurault. Dans l'éditorial, le bulletin paroissial a réussi à se procurer beaucoup d'informations, plus peut-être que ses gros confrères, sur les rapports du regretté président du Togo Iyadema avec les politiciens français. Monsieur de Poncin fera son miel de ces informations. Nous avons les fiches le RG de la Scientologie, et c'est vraiment plus vexant et humiliant pour les RG que pour la Scientologie, malheureusement. Comme c'était ce numéro est paru pour la Saint-Valentin, nous avons une interview d'un dragueur sur Internet qui nous explique. Alors, il ne s'agit pas de sites malpropres, il s'agit de ces sites de rencontres. Alors là, on rejoint à nouveau le sujet de tout à l'heure, quoi, la déliquescence du couple qui fait que des gens maintenant vivent sur Internet. Cet artiste dont nous avons caché, changé le nom naturellement, de même que celui de ses conquêtes, nous raconte qu'il a rencontré une journaliste d'un gros média qui lui a présenté son bébé Internet. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un papa sur Internet, et puis le papa est retourné sur Internet, mais elle a gardé le bébé qui lui aussi prend un bon départ dans la vie. C'est quand même mieux d'avoir deux mamans.
Ils l'ont quand même pas fait par courriel.
Non, rassurez-vous. Rassurez-vous. Mais enfin, c'est un bébé Internet qui le présente comme ça. Voilà. Donc, parmi nos signatures historiques, François Brignot, qui continue sa chronique de tous les présidents qu'il a connus, il en est au jour où le maréchal a pris les commandes.
Ça, c'est intéressant, le papier. Parce que c'est incroyable d'arriver encore à apprendre des choses nouvelles sur la façon dont s'est passé le basculement de la France en 40. C'est un grand papier.
Voilà. et puis je la cite jamais, mais je vais la citer pour une raison particulière, la revue de presse, parce que ça fait deux fois qu'on se paye le gratuit métro, et donc là, dans ce numéro-là, on raconte dans la revue de presse les mésaventures d'un membre du conseil d'administration de Métro International, qui est une société américaine qui fait 200 millions de dollars de chiffre d'affaires, et puis le métro, le gratuit métro qu'on voit à Paris, c'est une petite annexe. Alors moi, je me mords les doigts, on s'est moqué de lui parce qu'il a tenu un discours raciste, il a dû démissionner, etc., etc. Et je le regrette parce que dans le numéro d'aujourd'hui de Métro, qu'on m'a distribué dans le métro comme il se doit, j'ai découvert le fréminois de la patronne de ce monsieur, de la présidente du groupe Métro International, 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Elle a 27 ans, elle est très mignonne.
Non, mais elle doit être prise, à mon avis, vous perdez votre
temps. Oui, oui, je sais, elle est fiancée.
Sur Internet, peut-être.
Mais quand même, je me demande si j'ai pas commis, non pas l'erreur de ma carrière, mais une erreur de plus dans ma carrière. Bref, assez pris de votre temps. À ceux que j'ai convaincus de lire, ceux que j'ai convaincus de lire ce numéro 342 peuvent le commander comme un spécimen pour 5 euros ou un carnet de timbres. Ceux qui depuis des mois me disent « Ah là là, faudrait quand même que je babonne », eh ben papier, ou du moins carnet de chèque stylo, et on libelle son chèque de 110 euros, à l'ordre de SDB, 4 place France Liste, 75-010, Paris.
Il fait ça avec une telle conviction qu'on croirait presque qu'il touche une commission. Or, pas du tout. C'est incroyable. Merci, Patrick. Alors, je lui rends la politesse, comme je voudrais vous signaler que Patrick Goffman a publié un livre, ce qui lui arrive assez régulièrement, qui est un recueil de textes particulièrement vigoureux, en forme d'uppercut, de crochet et de jab. Donc, ça s'appelle « Divers droites ». Et on peut se le procurer, ou dans ça, aux éditions du Alpha.
Aux éditions du Alpha, je pense que vous avez l'adresse. Voilà. Donc c'est 23 euros franco pour ce recueil de mes billets d'humeur, de mes chroniques depuis une dizaine d'années. 23 euros franco à du Alpha, boîte postale.
58 77 522 Coulommiers-Sedex.
Merci Serge. Et tiens, merci. C'est moi qui vous donne une enveloppe.
Merci cher camarade, ça c'est gentil.
Et il change d'enveloppe.
Ah oui, il me donne une enveloppe avec du fric dedans en plus, c'est incroyable. C'est bon. Un auditeur demande, est-ce que le marquis a été enlevé par Michou? Je ne sais pas. J'ai dit non, sûrement pas parce qu'il est malade.
Par Victoria, dites-le. Ils sont absents tous les deux le même soir. Oui, c'est pas louche.
Mais oui, mais c'est parfaitement perfide ce qu'écrit cet auditeur. C'est évident que c'est Victoria puisqu'ils sont absents tous les deux. Et puis Michel de Ponsin, un message d'un auditeur qui dit à l'instant sur TF1 à propos des écoutes de l'Élysée, PPDA a expliqué que les policiers et gendarmes de la cellule sont défendus par des avocats prestigieux payés par le ministère de la Défense,
ah, voilà.
C'est-à-dire avec l'argent des contribuables, ça va bien dans le sens de ce que disait Michel de Ponsin. Voilà, je vais demander à des avocats prestigieux de me défendre lors de mon prochain procès aux frais des contribuables. Pourquoi après tout.
Pourquoi, oui. Hein.
Je donne quelques annonces et puis on terminera la soirée avec Georges Wolf, qui vit en Colombie et qui va nous raconter très rapidement comment ça se passe dans ce pays. Alors, les petites annonces. Donc j'ai dit Michel de Ponsin, samedi 19 février à 15h. À la librairie Guettier, 66 avenue Théophile Gautier. Conférence de carême de monsieur l'abbé de Tannouarn le 20 février. Il y aura 6 conférences, 6 clés pour un renouvellement spirituel. La deuxième conférence, mais on peut les voir une par une, c'est pas comme un feuilleton, hein. Le désir de l'homme et la grâce de Dieu. Dieu est plus que notre cœur. Alors ça se passe à 16h30, 6 rue Albert de la Parent, 75 007 Paris, métro Ségur. Ça sera dans le Libre Journal, la liste des conférences. Qu'est-ce qu'il faut encore que j'annonce? Pardon. Oui, ça, je l'ai fait. Pierre Boutan, La Maison un dimanche, une conférence de Rémi Soulier qui sera donnée par les cercles littéraires du Roseau d'Or le jeudi 17 février, c'est-à-dire demain, de 20h à 21h, ou aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent le matin, mais là, ça devient compliqué. Jeudi 17 février, de 20h à 21h, au parloir du Colombier, 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e, métro Saint-Sulpice. Le prochain dîner débat de Radio Silence aura lieu le mercredi 9 mars avec Daniel Raffard de Brienne, président de l'Association des écrivains catholiques pour en finir avec l'évolutionnisme. Je vous invite à aller à ce dîner d'abord parce que l'ambiance est charmante au dîner de Radio Silence et puis parce que je voudrais vraiment faire découvrir à nos amis Daniel Raffard de Brienne qui est un homme absolument délicieux, drôle et passionnant.
Pour s'inscrire, il faut envoyer 25
euros pour s'inscrire,
à l'association La Voix du Silence, 5 rue Dufresnoy, 75-116 Paris.
Donc vous êtes un des brillants animateurs.
Ah, ceci, voilà.
Voilà, La Voix du Silence, 5 rue Dufresnoy, 75-116 Paris. Vous envoyez 25 euros. Et si vous êtes étudiant ou alors si vous avez continué en faisant chômage, vous n'envoyez que 20 euros. Ça c'est un peu plus tard, c'est pas la peine. Pierre Pujol donnera samedi 19 février à 15h une signature de son livre L'autre résistance ou l'action française sous l'occupation chez Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, 75007 Paris. Je répète, 19 février à partir de 15h. Ça c'est trop tard, c'était le 13 février. Le 19 février aussi à 15h, alors ça c'est à France Livre, rue du Petit Pont, 6 rue du Petit Pont, Jean-Pierre Diques dédicacera Sainte Ide de Boulogne, maire de Godefroy de Bouillon, et Maxime Lenôtre dédicacera La création de l'islam. Je répète, samedi 19 février, 15h, librairie France Livre. Et le CEP, le 19 février, jour très occupé, tient sa journée régionale d'Île-de-France. Le CEP, c'est le Centre d'études et prospectives sur la science de Dominique Tassot, enfin présidé par Dominique Tassot. Le sujet, c'est, on l'avait dit, les questions de la pédagogie, pourquoi le vide à l'école, la musique comme outil de déstructuration mentale par l'excellent docteur Min Jung Diem, la pédagogie pour des cervelés par Jeanne Smith, notre amie directrice de présent, comment Jésus voyait la pédagogie de la catéchèse par Pierre Perrier, tête bien faite, tête bien pleine par François Valençon, par le professeur François Valençon. L'inscription est de 21 euros pour toute la journée. Il faut s'adresser 4 rue de Beauvais, 91 410 Saint-Cyr-sous-Dourdan, et ça se passera à la Maison de la Salle, 78 rue de Sèvres, Paris 7e, métro Duroc ou Vanneau. Je signale que le dernier numéro de la Durbelière vient de paraître et qu'on peut se le procurer. C'est un excellent petit journal. On peut se le procurer auprès de Jean-Louis Caffarel, 7 Lys, 13 avenue du Maréchal Leclerc, 77 230, Dammartin en Goëlle. Voilà. Et je signale la parution d'un nouveau magazine qui s'appelle Religion et Histoire et qui a l'air fort intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté. Le premier numéro est consacré aux personnages bibliques dans le Coran. Ça m'a l'air très très bien fait. En tout cas, c'est esthétiquement très réussi. Monsieur Wolf, vous habitez maintenant en Colombie, ce qui explique probablement à la fois votre bonne mine et votre sérénité, parce que vous êtes loin du champ de bataille dans lequel nous pataugeons.
Ah oui, tout à fait, oui.
Alors, je vous ai demandé de venir ce soir, parce qu'il se trouve que vous connaissez personnellement le président colombien, qui s'appelle Alvaro Uribe, et qui est présenté par les médias français, je mets des guillemets là, comme une espèce de dictateur fascisant, sous prétexte qu'il refuse de traiter les gens des FARC, c'est ça ? Oui, avec suffisamment de gentillesse.
Oui, alors je rectifierai, d'abord je ne connais pas personnellement le président, je connais son entourage direct. Ce qu'il faut dire avant tout, c'est que la Colombie est un pays qui souffre du terrorisme avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, depuis près de 50 ans. Et les différents présidents qui se sont succédés dans le passé ont essayé par tous les moyens d'instaurer la paix. Négociations, échanges de prisonniers, éviction des hommes politiques payés par les FARC, etc., etc. Et incroyable aussi dans l'histoire de l'humanité, le gouvernement colombien est même allé jusqu'à amputer le territoire national pour confier une région entière de la Colombie à l'administration des FARC. Aucune des mesures prises n'a permis d'y parvenir. Les FARC ont toujours rompu les accords qui étaient signés pour continuer à régner par la terreur. Les Colombiens en avaient assez. Alors, Alvaro Uribe, le président de la République, a été élu par une grande partie de la population sur un programme aussi simple qu'ambitieux, une lutte sans merci contre la corruption et le terrorisme. Alors, évidemment, on a reproché beaucoup à Alvaro Uribe de ne pas négocier avec les FARC, par exemple, sur le problème d'Ingrid Betancourt, qui est prisonnière depuis 3 ans par les FARC. Alors, Alvaro Uribe part du principe qu'on ne peut pas négocier avec les FARC. Ce sont des criminels et on ne négocie pas avec les criminels.
Oui, c'est vrai qu'il fait le contraire. Enfin, il fait pas le contraire. Lui, il va jusqu'au bout de ce qui est la position officielle de la France qui dit on ne négocie pas avec les terroristes moyennant quoi. On négocie absolument surtout à n'importe quel prix. Tandis que lui, il dit on ne négocie pas et il négocie réellement pas.
Non, il ne négocie pas
et ça lui vaut la haine déterminée de la mafia médiatique et politique, puisque je suis allé sur Internet pour voir un peu les sujets qui lui, enfin les sites qui lui étaient consacrés, et on explique, certains sites expliquent qu'il y a 20 ans ou 15 ans, je ne sais plus exactement, il était en relation avec le fameux cartel de Colombie, qu'il était complice de ces gens-là, ce qui pose quand même une question, c'est-à-dire où c'est vrai. Alors on se demande ce qu'on attend pour le foutre en taule, parce que où c'est pas vrai. Et on se demande comment les gens qui écrivent ça peuvent être assez fous pour croire que, on va supposer une seule seconde qu'un homme qui aurait été en relation avec le cartel de Colombie peut aujourd'hui affronter l'opinion publique, non pas l'opinion publique, mais le mondialisme, et lui dire non, moi je ne veux pas négocier avec ces terroristes sans subir aucune conséquence.
Oui, alors je veux tout fort qu'il ait appartenu à ces groupes terroristes pour une raison déjà très simple, c'est que son père a été assassiné par les FARC. Donc il y aurait déjà une revanche personnelle à reprendre sur les FARC. Maintenant, il faut savoir que le peuple à 80-90% appuie entièrement Alvaro Uribe aujourd'hui. Je vais vous donner d'abord quelques chiffres, ça va être beaucoup plus simple. En ce qui concerne la sécurité, les homicides, les enlèvements, les massacres, les attaques de la population et les violations des droits de l'homme ont nettement diminué. Les résultats dépassent les prévisions. En décembre 2003, 4294 membres des groupes armés rebelles ont été mis hors d'état de nuire. Entre 2002 et 2003, le nombre d'homicides a chuté de 20%, les enlèvements de 26%, les attaques de la population de 86% et les migrations des populations a baissé de moitié. On peut aussi parler du travail qui a été fait, puisque, alors il y a beaucoup de choses à dire. À partir de ce moment, d'abord, le travail contre les FARC est ininterrompu et permanent. Les FARC ont été obligés de se réfugier, de partir, sont obligés de quitter la Colombie et se réfugient soit au Pérou, où ils essayent de relier le Sentier Lumineux, le groupe terroriste Sentier Lumineux, soit ils essayent de se réfugier au Venezuela. Alors, hélas, il a été très difficile.
Venezuela qui est en situation de guerre larvée avec la Colombie depuis des dizaines d'années. Là encore, on a failli assister à un conflit armé.
Alors, j'en parle d'ailleurs dans le... Ça paraîtra dans le prochain...
National Hebdo.
National Hebdo, là, dans 2-3 jours, je pense. Un long article. En deux mots, je dis que, bon, en 1987, déjà, la flotte vénézuélienne était rentrée dans les eaux territoriales de Colombie et voulait se les approprier. Alors là, c'est peut-être un peu plus amusant, en fait, c'est que un grand terroriste, Rodrigo Granda, je fais une petite aparté là pour dire que quand je parle de terroristes, je parle de gens qui tuent et torturent des paysans, des touristes, donc il ne faut pas se tromper de victimes. Donc Rodrigo Granda, en fait, s'est fait arrêter le 13 décembre en Colombie, à Caracas. Or, il y a eu sur cette histoire-là tout un branle-bas de combat, puisque le président de Hugo Chavez du Venezuela a fait toute une histoire grandiloquente à la télévision, à la radio, pour dire oui, il y a eu violation du territoire vénézuélien par l'armée colombienne. Or, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des terroristes ont leur tête mise à prix. Au Venezuela, en Colombie, comme aux États-Unis, je ne sais pas en France si c'est le cas.
Non, vraiment pas.
Alors, on recherche ces terroristes. Et ils ont été... Rodrigo Granda a été donc fait prisonnier par la police et l'armée vénézuélienne sur le territoire du Venezuela, à Caracas. Et il a été remis aux autorités colombiennes sur le territoire colombien, où ensuite il a été arrêté.
Alors, il a été vendu, en fait.
Hugo Chavez a dit qu'il y avait une violation du territoire du Venezuela, alors qu'en fait, le terroriste avait été fait prisonnier par la propre police du Venezuela.
Bah, écoutez, pour une fois que la police gagne de l'argent à l'export, on peut difficilement le lui reprocher. Hein.
Voilà. Alors ensuite, ça a permis quand même au président Uribe de faire savoir que les terroristes étaient donc effectivement bien en sécurité au Venezuela, ce qu'on n'arrivait pas encore à prouver. Et alors, que je recherche, je l'ai par ici. Alors.
On a un blanc là.
Voilà, c'est là. Oui, c'est bon. Voilà. Il y a une résolution, la résolution 1373 de l'ONU, qui interdit aux États d'héberger des terroristes de manière active ou passive. Alors, ça fait longtemps aussi que la Colombie savait que les terroristes se réfugiaient au Venezuela. Alors là, évidemment, on avait un cas flagrant et on a eu un risque de guerre entre le Venezuela et la Colombie. Et c'est le président de Colombie, Alvaro Uribe, qui a proposé quand même à Hugo Chavez de voir si on pouvait pas travailler un petit peu ensemble pour lutter contre le terrorisme.
Alors, on n'a plus le temps malheureusement, mais on a vu à peu près la situation. Je comprends mieux maintenant pourquoi Chirac paraît si déterminé à faire condamner Alvaro Uribe par l'opinion, enfin par les autorités internationales. Mais je voudrais vous poser une question pour finir. Vous êtes collaborateur de National Hebdo, vous êtes résident en Colombie, et vous êtes le représentant du Front National en Colombie. Est-ce qu'on pourrait dire que la façon dont le président Uribe dirige son pays pourrait servir d'exemple dans certains domaines à un chef de l'État en France qui voudrait redresser la situation?
Je le pense un petit peu. D'ailleurs, je voulais en venir là. Parce que Alvaro Uribe est un démocrate. Il s'appuie entièrement sur le peuple. Il est aimé du peuple. L'armée et la police n'ont jamais été aussi populaires que maintenant. Au mois de janvier, Alvaro Uribe a eu le courage de virer pas mal de généraux et de colonels, aussi bien dans la police que dans l'armée. Il n'a pas fait du tout dans la dentelle. Ensuite, il y a une chose aussi à dire, c'est qu'il y a, sur le plan économique, l'investissement privé a augmenté de 17% et les exportations de 7,8%. Les experts ont calculé que l'économie devrait atteindre un niveau de croissance de 5%.
Oui. Alors, vous savez, on arrive au bout de l'émission. Je signale aux auditeurs qui peuvent se procurer vos articles dans National Hebdo. Vous nous avez dit que vous publiez prochainement un article. Et je vous pose une dernière question, qui est une question piège. Comment s'appellerait éventuellement le Alvaro Uribe français?
Comment s'appellerait Ah oui, Jean-Marie Le Pen, bien sûr. C'est pas trop difficile.
On peut dire que c'est sans surprise. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de vous déranger de si loin. Mais enfin, je précise que vous n'êtes pas venu uniquement pour participer à cette émission quand même. Merci Jean Wolf. Merci Michel de Poncin. Tout le monde nous a abandonnés. Nous sommes comme des enfants à la dérive. Merci à Franck d'avoir animé cette émission. Produit cette émission. En dépit de quelques bavures imputables, une fois de plus, à mon manque de sérieux. Je vous dis, sauf erreur de ma part, à la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen, sur 100,6, à Chartres, sur 104,5, à Cherbourg, sur 87,8, au Havre...